bonsoir à tous, bienvenue à cette première, toute première édition, édition spéciale de Bafweb Radio. Nous avions l'intention de recevoir ce soir en première heure donc Monsieur Sébastien Bordman, porte-parole de l'Association des étudiants unis en France, où il se passe des choses plutôt troublantes, le CPE, le blocage des universités en Suisse. On ne sait pas vraiment ce que ça représente, on est un petit peu perplexe devant ce type de phénomène. Monsieur Bordman, malheureusement, ne viendra qu'un peu plus tard, puisqu'il est pris par la télévision France 2, grande réunion de ministres et d'associations d'étudiants. Alors nous allons continuer directement avec Monsieur Roland Richard, un jeune blogueur, n'est-ce pas, qui mérite d'être encouragé, et qui fait partie donc d'une association de contre-bloqueurs de Nanterre. Contre-bloqueurs, qu'est-ce que c'est? Roland Richard, bonsoir.
Bonsoir, Adrien de Ritmat.
Alors voilà, vous nous téléphonez donc directement de Paris. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent intervenir, c'est assez simple. Ils ont accès donc au site www.bafouet.com et à droite, ils ont donc l'interface de Skype qui leur permet d'envoyer un message ou d'intervenir directement, c'est assez simple. Voilà, Monsieur Richard, je vais laisser vous présenter.
Oui, alors bonjour, bien, donc je m'appelle Roland Richard, je suis étudiant en deuxième année d'histoire à Nanterre, à l'université de Paris 10 Nanterre, et donc voilà, depuis trois semaines maintenant, quatre presque, là, à la fin de cette semaine, depuis quatre semaines maintenant, mon université est bloquée. Elle a été bloquée, puis maintenant elle a été fermée, puis rouverte, enfin, de multiples péripéties. Et donc voilà, alors je commence déjà à présenter ce qui s'est passé, le CPE, c'est comme...
Alors oui, le CPE, franchement, donc ce serait vraiment la cause principale du blocage de ces universités, c'est ça?
Alors, il faut différencier deux problèmes. Il y a un premier problème qui est en effet le problème du CPE et plus généralement le problème de l'emploi en France. Et puis il y a de l'autre côté le problème des gens qui n'attendaient qu'une occasion, j'ai envie de dire, pour saisir, si vous voulez, cette opportunité de la grève générale, du blocage des universités, de fermer les bâtiments des universités, et plus généralement en fait avec pour objectif de renverser le gouvernement ou du moins de l'affaiblir sensiblement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à deux types de bloqueurs, deux types de grévistes finalement. Le premier type qui donc a commencé réellement les blocages sur les universités, notamment la mienne à Nanterre, où donc on a vu un certain nombre de personnes qui ont débuté une grève en bloquant les bâtiments de sciences humaines, qui sont donc les bâtiments EAA. Et qui donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, avec évidemment déjà un groupe de personnes qui, de toute façon, n'attendaient que la grève générale, mais disons que le premier objectif, c'était bien la lutte contre le CPE et contre ce projet de loi.
Alors, mon cher Roland, hein, je vais la jouer hardisson, je vais commencer à tutoyer, ce sera peut-être un petit peu plus simple puisqu'on est entre jeunes révolutionnaires, n'est-ce pas? Parce que c'est le sujet du jour. On est en Suisse, il va falloir nous expliquer calmement qu'est-ce qui s'est passé déjà à Nanterre, quelle est la culture et l'histoire de Nanterre, et puis surtout, objectivement, qu'est-ce que c'est que le CPE et pourquoi ça fait tellement de foin?
Alors déjà, tout d'abord, le passé de Nanterre est riche, puisque c'est de l'université de Nanterre que le fameux événement historique qu'on a appelé après mai 68 est né donc à l'initiative d'un jeune étudiant qui s'appelait Daniel Cohn-Bendit. J'ai un doute sur le prénom, mais enfin, c'est Cohn-Bendit.
Oui, c'est Daniel, on le connaît bien sur le BAF. Ouais, ouais.
Donc voilà, donc ce cher monsieur Cohn-Bendit donc avait lancé une révolte, disons que le mouvement était parti d'une querelle de dortoir. En fait, le président de l'université refusait que les étudiants masculins dorment avec les étudiantes féminines. Et donc de là était parti un véritable trouble, associé à cela un certain nombre de troubles au niveau des industries. Et puis finalement c'était le mouvement 68, mai 68, avec les pavés jetés sur les policiers, et puis tout ce qu'on connaît, la prise de la Sorbonne, les universités chargées par les forces de l'ordre, et ainsi de suite. Donc on était abouti à l'espèce d'énorme événement qui avait fait la révolution des mœurs françaises. Les mœurs françaises, c'était donc ce fameux mai 68. Donc de là, c'est vrai qu'on est à Nanterre aujourd'hui. Nanterre qui est donc une université symbolique à la fois parce que justement, il y a ce contact historique, j'ai envie de dire, avec la révolution, avec la révolte, avec le fait de dire on en a assez. Et puis également le fait que c'est quand même une université qui est à une force, forte tendance de gauche, et donc également, si vous voulez, le lien révolutionnaire est quand même très présent. Mais il faut également rappeler que c'est quand même l'une des universités les plus grandes de France au nombre d'étudiants, qui a quand même 32 000 étudiants à Nanterre. Et donc c'est vrai que ça prend tout de suite des proportions. Dès qu'il se passe quelque chose à Nanterre, on regarde au vu du passé historique de cette université, mais également au nombre d'étudiants, puisque c'est quand même l'une des universités les plus importantes. Alors ensuite, c'est vrai, ce qui s'est passé par rapport au CPE, qu'est-ce que c'est que ce CPE ? Le problème de l'emploi en France, c'est quelque chose qui est récurrent depuis maintenant une vingtaine d'années. Et en fait, le CPE a été fait en grande partie, en tout cas d'après les propos du chef du gouvernement Dominique de Villepin dimanche dernier sur TF1, donc la première chaîne de télévision française. En gros, Monsieur de Villepin a dit que le CPE, donc le contrat première embauche, avait été fait pour les jeunes des banlieues qui s'étaient révoltés, qui avaient lancé les émeutes en novembre dernier, donc novembre 2005, dans la banlieue parisienne et notamment dans la banlieue nord, qu'on appelle la Seine-Saint-Denis, c'est le nom du département, et ce fameux 93, donc le numéro du département. À partir de ce moment-là, on a voulu, et ça a été décrété, je crois, comme grande cause nationale, on a voulu, si vous voulez, absolument saisir l'opportunité pour trouver des solutions et surtout pour faire en sorte que le chômage tombe enfin. Cette espèce de chape de plomb qui pèse sur chacun des Français aujourd'hui, c'est le risque du chômage et surtout le risque de ne pas retrouver, c'est-à-dire le risque de perdre son emploi et puis, pour ceux qui le perdent comme pour ceux qui n'en ont pas, de ne pas en trouver.
Donc en fait, si je comprends bien, c'était à l'origine une mesure sociale. C'était le remède au problème des banlieues.
C'était à l'origine une mesure sociale, dans la mesure où justement on parlait d'un chômage épouvantable pour les jeunes des banlieues, un chômage qui peut atteindre jusqu'à 40-50% des jeunes en banlieue. Et donc le but, c'était justement, comme on parlait de discrimination à l'embauche par rapport aux jeunes qui vivaient en Seine-Saint-Denis, donc ce qu'on appelle une discrimination géographique, et évidemment une discrimination qu'on pourrait appeler plus généralement une discrimination raciale finalement, par rapport aux enfants d'immigrés ou par rapport aux immigrés qui habitent là-bas. Et donc on voulait lutter contre cette discrimination en favorisant l'embauche, afin que les chefs d'entreprise puissent se dire, je le prends à l'essai finalement, et puis on va voir ce que ça donne.
Sincèrement, le gouvernement français est convaincu que le problème de la Seine-Saint-Denis, c'était un problème de chômage.
Ça a été la raison avancée, puisque de fait, si vous voulez, les jeunes qui ont lancé ces émeutes-là, en tout cas la raison avancée, la raison sociale, même si on peut penser, il y en a toujours, si vous voulez, il y a toujours des minorités de casseurs, et puis après, alors évidemment, ça dégénère, hein, c'est toujours pareil, et puis on a parlé même d'associations criminelles qui se seraient mêlées aux émeutes pour organiser justement toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'on avait avancé cette raison de l'emploi, du manque d'emploi, de la crainte de ces jeunes des banlieues de ne pas trouver d'emploi, et que c'était donc la raison fondamentale qui avait poussé à ces émeutes, qui avait poussé à ce qu'on brûle ces 45 000 voitures en 2005.
Donc et d'accord, alors, évidemment. Partant de là, on a donc un contrat pour l'embauche qui permet de prendre un jeune à l'essai, finalement, c'est ça?
Finalement, si vous voulez, le but, c'était à la fois de réduire le chômage pour les jeunes de ces banlieues, CPE, parce que le contrat première embauche, justement, s'adresse, et ça j'ai oublié de le préciser, aux jeunes de moins de 26 ans. Donc c'est quand même une précision. Ouais. Donc c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est spécifiquement fait pour la population justement qui avait produit ces émeutes dans les banlieues. Mais c'était également, ça c'était la raison sociale avancée, mais c'était plus généralement également une raison d'emploi même pour les jeunes, puisque le taux de chômage des jeunes, c'est le taux de chômage moyen, c'est 23%. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous avez moins de 26 ans et que vous avez un diplôme, vous avez un risque sur quatre de ne pas avoir d'emploi, un peu moins de risque sur quatre. Et lorsque vous n'êtes pas qualifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas de diplôme, on atteint les 50%, les 40%. Donc on est vraiment, si vous voulez, on est dans une précarité au niveau de l'emploi pour les jeunes d'aujourd'hui qui est tout à fait flagrante. Après, donc, la mesure qui a été décidée par Dominique de Villepin, c'était justement le CPE, afin d'éviter ce qu'on appelle les CDD en France, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée. Je ne sais pas si nos amis Helvètes connaissent ça également, mais en fait, en France,
on n'a pas ce plaisir.
Voilà, alors on a un nombre incalculable de contrats, si vous voulez, on en a 34, je crois, 34 types de contrats.
Ah bah c'est gay, ouais.
Donc voilà, alors c'est pour vous dire, si vous voulez, qu'en gros, il y a trois grands types de contrats, en dehors de tous les contrats sociaux qui peuvent exister, ce qu'on appelle les contrats aidés, les contrats, etc. Mais les trois grands types, c'est les CDI, c'est-à-dire contrats à durée indéterminée. Donc le contrat à durée indéterminée, on vous engage, mais on ne sait pas quand est-ce que va s'achever en fait votre période de travail. Et on a le CDD, contrat à durée déterminée. Donc là, c'est quelque chose, c'est fixé. On sait à l'avance la date de rupture, entre guillemets, du contrat, c'est-à-dire la date de fin de travail pour l'entreprise, et ce qu'on appelle les intérims. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous inscrivez dans une agence d'intérim, et vous rentrez, donc, l'agence d'intérim vous propose ce qu'on appelle des missions. Et là, donc, on vous propose des missions, si vous voulez, qui durent 2 mois à 1 an et demi. Donc, le but du CPE, c'était d'éviter aux jeunes tous ces CDD, donc les contrats à durée déterminée, et les intérims. Et en fait, pourquoi ? Parce que on considère que ces CDD et ces intérims nuisent à l'expérience du jeune. C'est-à-dire que, aux yeux de l'employeur, on considère que le CDD et l'intérim n'est pas une bonne expérience.
D'accord. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, Roland.
J'ai 19 ans.
19 ans. Est-ce que ce genre de contrat te tente, finalement ? Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi ?
Personnellement, moi je suis en CDD aujourd'hui.
D'accord.
J'ai eu 2 CDD jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Donc c'est vrai que je ne travaille pas beaucoup durant l'année, parce que je travaille seulement 2 heures par semaine, qu'on ne peut pas dire. Mais moi, honnêtement, si on me proposait un CPE, je ne suis pas sûr du tout que je refuserais. Au contraire. Je pense même que ça favorise honnêtement l'emploi. Mais à mon avis, le vrai problème, en ce qui me concerne, je ne serais pas contre prendre un CPE. Mais le vrai problème aujourd'hui, soulevé d'ailleurs, en général, par les grévistes les plus intelligents, c'est que on a l'impression que c'est pas ça qui va fondamentalement relancer l'emploi en France.
D'accord.
On a pas l'impression. Oui, excusez-moi.
Ok, oui, d'accord. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, donc, bon, c'est une tentative, elle est peut-être pas forcément très heureuse, mais on voit à la télévision, on ne voit même pratiquement que ça, des jeunes convaincus que le CPE leur fera du mal, que ça va favoriser leur précarité, qui seront un peu sous la coupe, c'est un petit peu l'iconologie marxiste, hein, le patron avec ses doigts crochus et puis son air mauvais, qui va se servir de l'employé et puis un jour le chasser à coups de pierre. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'on joue un peu sur les sentiments en France ou au contraire, il y a une réalité qui se cache derrière ce type de situation ?
Si vous voulez, c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai décrit au début en disant qu'il y avait 2 groupes. Il y a le groupe, si vous voulez, qui va assister dans les deux groupes vont diaboliser ce qui se passe et les patrons et plus généralement même la droite. Pour une raison bien simple, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens méconnaissent de toute façon le monde dans l'entreprise et surtout le monde de la gestion. Ça, c'est la première chose. Mais le véritable problème, en ce qui me concerne à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement a dévié. On était parti d'une grève plutôt pacifique, vous voulez, qui avait vraiment pour but de faire tomber ce projet du CPE. Le problème, c'est que dans les grévistes du départ, il y avait déjà des gens qui ne voulaient qu'une chose, c'était faire tomber le gouvernement. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec 2 types de personnes. On se retrouve avec les grévistes convaincus qui, eux, de toute façon, vont dire que les patrons vont les virer au bout de 6 mois parce que ils sont arrivés 10 minutes en retard, je sais pas moi, 2 jours de suite. Et puis vous avez les grévistes qui, de toute façon, eux, que ce soit le CPE, que ce soit ce qui a fait un tollé également épouvantable avant les vacances, qui s'appelait la loi Fillon qui donc visait une réforme des lycées, c'est-à-dire ce qui a amené au bac et donc juste avant l'université. Et en fait, on avait l'impression, si vous voulez, que pour ce groupe de personnes-là, que j'ai côtoyé pendant un certain temps, ayant fait moi-même partie d'une organisation étudiante, je les connaissant très bien, je sais qu'ils rêvaient. Ils rêvaient d'une grève générale, que soit la raison. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est cela qu'on retrouve dans les manifestations violentes, et c'est cela également qui appelle à la violence.
Donc c'est là justement que j'interviens. Comment ça se fait que ce type de discussion soit arrivé à l'université ? Objectivement, un universitaire, enfin c'est peut-être un peu plus le cas en Suisse, c'est quelqu'un qui ne travaille pas ou qui travaille peu finalement.
Alors là, si vous voulez, il est important quand même de resituer les choses, si vous voulez, c'est que 70% des étudiants travaillent.
Ah d'accord, quand même, ouais.
Donc, si vous voulez, c'est un chiffre qui est quand même, enfin, qu'il faut absolument prendre en compte, et c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, les gens ont introduit cette idée de débat sur le CPE, parce que ça les concernait directement. ils ont introduit cette idée de CPE, si vous voulez, dans l'université, comme parce que l'université représente un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu d'échange, un lieu de savoir. Le but était donc à la fois de mêler ce que sont les étudiants, c'est-à-dire à la fois salariés, mais étudiants également. Et donc, le débat s'est introduit naturellement, j'ai envie de dire, dans l'université. Le problème aujourd'hui, et c'est quand même le problème majeur, c'est la façon dont on nous a forcé le débat.
Alors on va venir à ça, donc finalement on comprend bien que ce débat a été un peu instrumentalisé par une bande de nostalgiques de 68, surtout à Nanterre, et puis une bande de professionnels tant de la casse que du trouble pseudo-étudiantin révolutionnaire. C'est un peu à peu près ça, non?
Disons que si vous voulez, oui, c'est à peu près ça. Le problème en fait aujourd'hui que l'on vit dans les universités, si vous voulez, c'est que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des grévistes qui sont convaincus que le CPE est une seule, ou que si on les y pousse, mais je veux dire que par défense, si vous voulez. Et ces gens-là, eux, ne posent pas problème. Le problème, c'est que eux, ils ont favorisé le blocage, ils y ont participé tous les jours, et donc, si vous voulez, ils ont aidé l'instrumentalisation, mais involontairement, de ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement aujourd'hui a été instrumentalisé par une racine, comme une racine du mal, qui était là dès le départ. Qui sont donc ce qu'on appelle les JCR, les Jeunesses Communistes Révolutionnaires, qui sont la GEN, c'est-à-dire, là je parle d'une association proprement à Nanterre, qui c'est donc l'Association Générale des Étudiants de Nanterre, qui est un groupe trotskiste semblable au JCR, et puis également ce qu'on appelle la CNT, Confédération Nationale du Travail, qui est donc un groupe anarchiste. Et donc si vous voulez, ces trois mouvements-là ont instrumentalisé progressivement cette mobilisation sociale, afin d'en faire, si vous voulez, plus ou moins quelque chose de quand même de pas très net. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que on l'a vu, je vous le dis, mais et je veux dire c'est quand même quelque chose d'affligeant, c'est qu'aujourd'hui il y a eu un appel sur un site anarchiste. Je ne sais pas si je dois en faire la publicité, je ne sais pas si ce site le mérite. Mais disons que si vous voulez sur ce site, il y a eu un appel à la violence, très clairement. Un appel, si vous voulez, où on pouvait lire « Nous serons des bandes incontrôlables et je veux dire, proprement, on ne pourra pas nous maîtriser. » Le but était donc de mettre ce qu'on appelle de mettre le bazar, pour pas dire autre chose, de mettre le bazar. Et aujourd'hui, on le sait, moi j'ai eu un appel aujourd'hui là d'un de mes amis blogueurs, avec qui je fais mon blog, qui m'a dit qu'à la Sorbonne, ça y est, ils étaient là, et qu'ils avaient donc commencé vraiment à mettre la pagaille, et que donc si c'était un affrontement permanent beaucoup plus violent encore que ce qu'on a connu ces derniers jours à la Sorbonne, donc l'université symbolique conservatrice traditionnelle de Paris, et donc les affrontements ont été décuplés avec les forces de police suite à un appel anarchiste à la lutte, si vous voulez, armée, j'ai envie de dire. Donc là, si vous voulez, on est dans un changement de forme du mouvement depuis quelques jours. En fait, depuis dimanche dernier, depuis vendredi dernier, samedi dernier, où la Sorbonne a été prise d'assaut par des gauchistes, et puis surtout par beaucoup de gens qui n'étaient pas des étudiants. C'est-à-dire que sur 600 personnes, on sait qu'aujourd'hui il y avait 150-200 étudiants, que tout le reste était soit des sans-papiers, soit des casseurs, soit, enfin bon, bref. Ce qui n'a rien à faire dans une université.
Et on vous excuse hein, tout à fait pour la terminologie gauchiste. Je crois qu'effectivement le terme est lancé. C'est assez intéressant. Maintenant, effectivement, on peut être un petit peu surpris par la violence des événements. Moi-même, qui ai fait un peu d'université dans une université de gauche en Suisse, à Lausanne, où il y a eu des tentatives, mon Dieu, de grève, hein, 20 ans après mai 68, on essayait encore. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a retrouvé, enfin moi, de ce que j'ai vu à la télévision, c'était à peu près la même chose. On a retrouvé exactement les mêmes méthodes. Je veux dire, on avait donc des structures universitaires démocratiques à l'université, la démocratie c'est quelque chose quand même d'assez cher aux Suisses, mais les gens qui voulaient absolument faire grève, bloquaient les salles par la force, réunissaient les assemblées, constituées de gens qui n'étaient pas sous de l'université, qui votaient, et puis sur 12 000 étudiants, il y avait 200 personnes qui décidaient pour toute l'université, alors que ces personnes-là n'étaient pas mandatées par les étudiants, n'avaient pas été élues et ce genre de choses-là. Alors moi, il y a deux choses qui m'a vraiment frappé, et j'aimerais que tu m'en parles, j'aimerais savoir comment ça s'est passé à Nanterre. C'est vraiment cet aspect blocage, assemblée générale, est-ce que vous avez été conviés, dans quelle manière les structures démocratiques la représentativité des élus étudiants a été respectée. Et puis alors une chose qui m'a profondément choqué, c'est de voir que contrairement à ce qui se faisait chez nous, alors quand même quand on le demandait, le vote général pour tous les étudiants a été interdit par la force.
Alors là, si vous voulez, on touche le nœud central de ce qui moi m'a poussé à me lancer donc dans cette action, de ce que j'ai nommé sur mon blog sans trop d'idées de futur, mais donc de contre-bloqueur ou de contre-blocage, c'est que si vous voulez, on a été tout simplement pris en otage. On a été pris en otage parce que un beau matin, c'était un mercredi, je me souviens très bien, donc c'était il y a 3 semaines, 4 semaines, je sortais d'un cours de sociologie politique qui avait lieu donc dans un bâtiment un peu plus retiré du campus, qui avait le bâtiment T. Et j'ai voulu me rendre donc à mon bâtiment principal, qui est donc le bâtiment D, qui est le bâtiment des historiens et aussi des sociologues. Et là, si vous voulez, je n'ai pas pu rentrer en cours. Tout simplement, il y avait une foule, je dois dire quand même, plusieurs centaines de personnes, hein, 600, 700 personnes, qui manifestaient, et une partie de ces personnes-là qui bloquaient l'entrée de ces bâtiments, qui avaient bloqué avec des chaises, des tables, l'entrée du bâtiment E, et également l'entrée des bâtiments B et A. Donc on se retrouvait, si vous voulez, sans vote, sans absolument aucune consultation des étudiants, sans aucune consultation de l'administration, bien évidemment. Mais ils s'en seraient bien gardés de toute façon. On se retrouvait avec des bâtiments pris en otage, et des bâtiments bloqués, pardon, et donc des milliers d'étudiants pris en otage. Et je dis bien des milliers, parce que rien qu'en sciences humaines, je peux pas vous donner de chiffres précis, mais on doit être au moins 10 000,
à mon avis.
Donc, alors évidemment, on n'était pas 10 000 ce jour-là, puis il y a des gens qui viennent jamais de l'université, qui prennent des cours par correspondance, etc. Mais on devait bien être 2-3 000, si vous voulez, être bloqués ce jour-là.
D'accord.
2-3 000 par 600-700. Donc, c'est le début, si vous voulez, de tous les affres de cette révolution. Et donc, on a commencé à organiser ce qu'on a appelé
Tu parles quand même de révolution.
Oui.
Enfin, il semble qu'à Nanterre, c'est plutôt une tradition, donc.
Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'était le titre de mon premier article sur mon blog.
On va parler de ton blog tout à l'heure, effectivement. Mais donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est donc qu'il y a une grande minorité, finalement, ou une toute petite minorité par rapport à la majorité étudiantine, qui essaie d'instrumentaliser cette affaire.
C'est-à-dire que l'exemple le plus probant, c'était le jeudi 9 mars. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'aura vraiment marqué pour longtemps. On a eu une assemblée générale, après le blocage définitif de tous les bâtiments de l'université, y compris les bâtiments de droit et d'éco-gestion, qui sont symboliques, si vous voulez, de bâtiments qui normalement sont inatteignables parce que ce sont les bâtiments de droit, les bâtiments de management. Donc c'est des bâtiments où les gens sont catalogués à droite et donc à proprement parler contre les grèves. Et ce jour-là, les bâtiments ont été bloqués. Et ce jour-là, on a eu une assemblée générale, on était à peu près 2000, entre 2000 et 2200 personnes, dans un grand amphithéâtre donc du bâtiment G, qui est donc le bâtiment d'éco-gestion. Et là, si vous voulez, on a eu un vote. Après 2 heures de débat ne servant strictement à rien, 2 heures de débat qui ont quand même servi leur cause à eux, puisque des gens qui auraient voté contre le blocage sont partis, certainement aussi des gens pour le blocage qui en avaient marre, hein, ça c'est possible, mais j'en doute quand même plus fortement. Des gens qui sont contre le blocage qui sont partis en se disant ils vont jamais nous faire voter, et puis des gens aussi qui tout simplement ont changé d'opinion. Et là, si vous voulez, on rentre dans ce que vraiment, je n'hésiterai pas à employer ce terme, on rentre dans ce qui est totalitaire dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'on rentre dans un lavage de cerveau. On rentre dans un lavage de cerveau et on rentre, si vous voulez, dans ce qu'il y a de plus antidémocratique, c'est-à-dire que on a soigneusement bien préparé la liste des intervenants dans le mouvement. On a fait passer tous ceux contre le blocage en premier.
D'accord.
Comme ça, on voyait bien les arguments qui étaient mis en avant, etc. Et à la fin, on a mis tous ceux qui étaient contre le blocage, qui étaient pour le blocage, avec un ou deux quand même au milieu pour pas que ça fasse trop flagrant. Hein, il fallait quand même pas nous prendre pour des buses. Mais bon, donc quand même, si vous voulez, c'était quand même net. Du coup, ce qui s'est passé, et je vous avoue que moi personnellement, j'aurais même pu être convaincu. Les orateurs, les gens qui viennent des jeunesses communistes révolutionnaires sont des gens qui sont habiles.
Ah, donc le terme est lancé, c'est quand même donc les JCR, les jeunesses communistes révolutionnaires, donc qui ont piloté le mouvement.
Ils ont piloté le mouvement sans, à mon avis, quand même vouloir ce qui se passe aujourd'hui.
Mais est-ce que les étudiants sont pas choqués par la récupération politique finalement dans leur université? Est-ce que vous avez perdu un peu un sentiment d'indépendance propre au corps étudiantin, ou est-ce que vous êtes complètement livré aux puissances politiques? D'un côté l'UNI UMP et de l'autre l'extrême gauche estudiantine. C'est quand même un peu étonnant, donc.
Ben si vous voulez, le problème c'est que aujourd'hui, en fait, il y a les gens. Personnellement, si vous voulez, je pense que ce genre de mouvement ne peut pas être autre chose que récupéré. Dans les bloqueurs, comme dans ceux qui sont contre les blocages, il était évident que l'UNI allait essayer de récupérer le mouvement, et c'est légitime, étant donné que l'UNI est aidé, enfin, je veux dire, via de l'UMP, l'UMP qui est donc le parti qui a promu ce projet CPE. Donc c'était évident que, si vous voulez, voyant qu'il y avait tout un tas de gens qui étaient contre les blocages, ils allaient se dire c'est une bonne occasion de convaincre les gens que le CPE est une bonne chose. Et puis, en même temps, en disant que de toute façon, le blocage, c'est une horreur. De l'autre côté, si vous voulez, il était évident que de toute façon, c'est pas des gens qui partent d'eux-mêmes, si vous voulez, des gens de gauche, qui sont non syndiqués, non politisés, qui lancent ce genre de mouvement. Ça, je n'y crois pas.
D'accord.
Un mouvement est essentiellement politique, surtout quand il prend une telle ampleur. Il a une essence politique au départ.
Alors encore une petite question, comment réagit la tête de l'université aux ébuts, une sorte de recteur ou de président? Il a dû réagir d'une façon ou d'une autre.
Tout à fait. Alors le problème, si vous voulez, c'est que moi personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité encore de le dire par écrit, mais pour moi, si vous voulez, en ce qui concerne le président de l'université de Nanterre, je le condamne vraiment pour sa faiblesse lors de ce mouvement. Je le condamne pour sa faiblesse parce qu'il a mis 2 semaines et demie à réagir. Que pendant 2 semaines et demie, nous avons été bloqués en sciences humaines, tous les jours, qu'il y avait tous les jours des étudiants qui venaient en cours, qui venaient parfois très loin, une heure et demie de trajet, pour arriver à 8h30 et voir que leur bâtiment était de nouveau bloqué. Il a fallu donc 2 semaines et demie pour entendre la voix du président, et non pas sur les terres, entre guillemets, de l'université, non pas par des communiqués du président, non pas non plus sur le site de l'université, non, à la télévision, on a appris que notre cher président, M. Odéou, avait décidé de demander le retrait du CPE au chef du gouvernement.
Ah ouais, donc c'est de la collaboration, carrément.
Alors, oui, alors bon, comme le terme est très connoté en France, je l'aurais employé pas, mais... puisque c'est en général on l'emploie pour la collaboration avec les nazis pendant la guerre mondiale, mais c'est vrai que si vous voulez, je me suis dit il prend position, ça le regarde, mais qu'il prenne position pour son université, ça je trouve que c'est quand même beaucoup plus culotté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ensuite il a voulu organiser un vote, ce que je trouvais très bien, mais la question a été mal posée. Ça c'est une évidence. Il a demandé êtes-vous pour la reprise des enseignements, et évidemment il était évident que ceux qui s'étaient mobilisés pour le blocage allaient dire « mais on n'est pas contre la reprise des enseignements ». Ils ne voulaient pas se faire accuser d'être contre les cours. Donc de toute façon, c'était mal posé. Il fallait soit spécifier une date « êtes-vous pour la reprise des enseignements dès le lendemain du référendum » ou carrément changer la question. Bon, ça donc on avait une première erreur sur la faiblesse, on a attendu 2 semaines et demie. Deuxième erreur en prenant position alors que c'est absolument pas son rôle. Troisième erreur, commencer à, je veux dire, proposer un référendum, mais avec une question imprécise et au dernier moment. Et enfin, alors là, j'ai pas envie de dire que, si vous voulez, c'est une faiblesse. Il a eu la bonne idée, j'ai envie de dire enfin, on commençait à se demander pourquoi il était président d'université. Il a réussi, il a dit, on va fermer l'université pour des raisons de sécurité. Et là, de fait, sur ce même site anarchiste, on avait envoyé les casseurs de la Sorbonne, on leur avait clairement dit, vous allez à Nanterre, et là, vous y mettez le bazar. Donc là, je pense que le président a pris la bonne décision. Bon, elle l'arrange autant, j'ai envie de dire que le reste des gens, puisque de toute façon, ça faisait quand même mauvais effet pour lui d'avoir ça sur son terrain. Bon, ça donc là, on est quand même à pas mal d'erreurs. Et puis la dernière erreur en date, c'est hier. Alors là, mais je vous avoue que j'étais retourné. La demande des grévistes, c'était de banaliser une semaine des cours, en plus des semaines bloquées, j'entends bien. De banaliser une semaine des cours pour faire des débats sur le CPE avec des professeurs qui étaient contre, d'autres professeurs qui étaient pour, beaucoup plus contre que pour. Et si vous voulez, donc, on a eu, en plus, si vous voulez, on est dans un cadre où il a lâché. C'est-à-dire que depuis le départ, il prend position comme ça l'arrange. Il attend. Et enfin, il lâche, si vous voulez, au bout de 2 jours où l'université est fermée, pour donner raison, finalement, aux grévistes. Ce qui fait que, si vous voulez, nous, les contre-bloqueurs, hein, eh bien, on se retrouve dans la situation de se dire, mais on n'a plus de légitimité. La seule légitimité qui nous reste, et même pour les gens qui ne l'aiment pas, c'est que Dominique de Villepin ne lâche pas son affaire de projet. Parce que s'il retire son CPE, tout notre mouvement pour reprendre les cours n'aura plus aucun sens. Et j'ai envie de dire que s'il le fait, Dominique de Villepin, il sera dans la lignée d'un président comme M. Odéou. Bon, donc, si vous voulez, évidemment qu'il y a des je comprends la difficulté d'une telle situation. Mais on a vu des présidents d'université beaucoup plus fermes. On a vu des présidents d'université, si vous voulez, qui ont porté plainte, etc. Alors oui, c'est vrai que lui aussi, il a porté plainte pour 2 agressions qui ont été faites. Une antisémite, où 70 lycéens ont poursuivi un jeune étudiant juif, en criant à mort au rabbin.
À 70, à Nanterre?
Oui, à Nanterre.
C'était quand?
Alors ça, c'était le vendredi 10 mars. Il faut resituer le contexte. Je vous ai parlé de l'AGEN tout à l'heure. L'AGEN, donc l'Association Générale des étudiants de Nanterre. L'AGEN est, j'ai envie de dire, ultra pro-palestinienne. Donc, si vous voulez, s'il y avait une branche armée du Hamas en France, je pense qu'ils n'en seraient pas très loin.
D'accord.
Donc, si vous voulez, ils sont extrêmement typés, si vous voulez. Le leader de l'AGEN se trouve être un professeur en collège-lycée. Et on pense, moi je l'ai carrément affirmé, je pense que ce sont ces étudiants qui sont là. Et qui ont mis, si vous voulez, qui sont arrivés en hurlant à mort aux juifs, quoi. En gros, c'était ça, hein. Parce que les bâtiments de droit sont les bâtiments des gens riches et puis plus généralement des gens de droite, hein, vous voyez le décalage est facile, même
ouais,
au niveau du verbe, hein, et donc les gens riches sont des juifs forcément, et comme nous sommes pro-palestiniens, les juifs c'est des pro-israéliens, donc il faut les tuer, hein, ou au moins les taper.
Mais
donc,
ces étudiants, c'est quoi, c'est des musulmans ou bien la gauche?
Non, ce sont des lycéens.
Mais
ils ont un maximum 18-19 ans, enfin peut-être 20 pour certains.
C'est marrant chez vous quand même.
Donc là, c'est vrai que le président a eu raison, il a porté plainte. Mais j'ai envie de dire que c'était le strict minimum.
Ouais, d'accord. Hein.
Il a également porté plainte pour un étudiant qui a été tabassé, hein, il n'y a pas d'autre terme, tabassé par 3 grévistes qui l'ont mis au sol et l'ont roué de coups. Là aussi, il a porté plainte.
D'accord.
Bon, j'ai envie de dire, heureusement. Parce qu'alors là, si vous voulez, c'est même plus de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Hein, je veux dire, il y a quand même un stade où il faut bien présenter les choses. Donc c'est vrai que ce président-là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il tient beaucoup à sa place de... on l'a promis, si vous voulez, à une place de recteur d'université. Alors, le recteur, c'est par région, et donc le recteur, c'est le grand président des universités, en l'occurrence ici, des universités parisiennes.
D'accord.
C'est également ce recteur-là, donc le recteur actuel... qui avait sur demande du président de l'université de la Sorbonne, qui lui est vraisemblablement plus pro-CPE que contre-CPE, et qui avait lui demandé l'intervention des forces de police pour virer les gens de son université, ce que personnellement je ne suis pas contre. Hein. Je vous avoue que ça a fait quand même un certain sentiment de soulagement de voir que, si vous voulez, il y avait des gens qui réagissaient. Et pas simplement des étudiants.
Donc on est quand même plus confronté à une bande de casseurs, piloté par la gauche, que par des gens qui seraient vraiment convaincus que le CPE va leur faire beaucoup de mal et qui se battent avec l'énergie du désespoir pour tenter de survivre.
Si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit, en fait, la situation est extrêmement complexe. Vous avez les grévistes pacifiques qui sont non politisés, non syndiqués, qui eux sont contre les CPE. Vous avez l'UNEF, qui est le premier syndicat de France, hein, des étudiants. Vous avez l'UNEF et les JCR. Je vais les mettre ensemble parce que il y a beaucoup de JCR, malheureusement, dans l'UNEF, qui eux, si vous voulez, était pour que le mouvement prenne une autre ampleur, quitte à renverser le gouvernement. Les JCR très volontairement, l'UNEF pas forcément. Enfin, je veux dire la partie UNEF qui n'est pas JCR. Et puis vous avez enfin les anarchistes, les casseurs. Donc il faut voir que c'est des multigroupes et qu'aujourd'hui ceux qui sont violents, ce sont cette dernière catégorie. Ce sont les anarchistes, ce sont les casseurs. Et honnêtement, je pense que parmi les casseurs de novembre, c'est une minorité aujourd'hui qui est dans les casseurs qui sont à la Sorbonne. Personne ne le sait vraiment, mais je doute honnêtement qu'il soit dans ce genre de manifestation. C'est un mouvement anarchiste. C'est un mouvement qui veut le chaos. à la Sorbonne.
D'accord, donc ça on l'a bien compris. Maintenant, on va parler un petit peu de ton action, de ta réaction. J'ai Arnaud Collet qui me pose la question. Alors, à quand une descente unitaire raide, UDE, UNI? Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, peut-être que tu comprendras, mais apparemment, certaines personnes souhaiteraient une réaction un peu musclée face à une violence un peu imposée. Alors, quand même. Oui.
Donc là, il faut spécifier déjà ce que sont le RAID, le GUD et l'UNI. Bon, l'UNI, nous aurons quelqu'un qui nous en parlera certainement.
Voilà, tout à l'heure, oui, il y a un boardman qui débarque. Ouais.
Mais pour parler, alors, le RAID, c'est le rassemblement des étudiants de droite, qui est donc en fait qui est une moquerie. Parce que les jeunesses communistes révolutionnaires ont un journal qui s'appelle Reds, donc les rouges.
Ok, ouais.
donc c'est une véritable moquerie, c'est de l'ironie très forte. Le Red, c'est quelque chose qui, moi honnêtement, dont je n'ai pas entendu parler avant très peu. Ça fait un mois, j'ai vu leurs affiches à Nanterre. Je vous assure qu'ils ont du courage pour venir à Nanterre, parce que si on les attrape, si les gauchistes les attrapent, ils vont vraiment passer un sale moment. Mais ils ont collé des affiches. S'ils sont contre le CPE, c'est bien que gauche égale chômage. Donc c'est vous dire un peu le mouvement. On dit, si vous voulez, que ce sont des descendants du GUD, mais en plus pacifiste. Alors qu'est-ce que le GUD ? Le GUD, c'est quelque chose qui est à Assas, donc l'université Paris 2. Et le GUD, en fait, est quelque chose de très spécifique. Personnellement, je ne peux pas vous en parler trop, parce que j'ai des amis qui seraient énervés de voir que je médis du GUD. Mais disons que, si vous voulez, le GUD, c'était quand même un groupe d'extrême droite, on peut appeler ça comme ça, assez violent quand même, assez, on va dire, assez activiste, assez porté sur l'action, hein, ils aimaient plus la batte que le verbe, et donc, si vous voulez, ça a été, ce sont les ennemis jurés, évidemment, des gauchistes, donc voilà, alors, par rapport à cette question d'Arnaud, on a vu déjà l'extrême droite hier, qui a, enfin l'extrême droite, tout est relatif, mais bon, disons, il y a eu un certain nombre de gens de droite forte, on va dire, qui sont descendus dans la rue et ont dit qu'ils voulaient délivrer les universités. Et s'en sont pris carrément aux manifestants et aux casseurs anarchistes. Donc, si vous voulez, on a eu deux types de conflits près de la Sorbonne, donc dans ce qu'on appelle le quartier latin de Paris. On a eu une lutte entre forces de police et casseurs, grévistes, manifestants contre le CPE. Et on a eu une lutte entre ces extrémistes de droite, mais enfin bon, on sait qu'en France, on aime bien cataloguer les gens d'extrême droite, donc il faut quand même modérer. Mais disons, on a eu, si vous voulez, ces extrémistes de droite qui, eux, se sont battus également contre ces manifestants, etc. Les policiers se sont évidemment interposés entre les deux, mais donc ça a déjà eu lieu. Il y a eu déjà, si vous voulez, une tentative unitaire vraiment de droite, très fortement à droite, de lutter, si vous voulez, contre ce blocage. Et moi, personnellement...
Est-ce qu'ils arrivent à faire le poids ces types du GUD, ou au contraire, ils sont pas assez nombreux, ils sont trop faibles?
Honnêtement, c'est très difficile d'évaluer ça. Cependant, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que ce qui décrédibilise depuis le début ce mouvement, c'est la violence.
D'accord, oui.
Si nous commençons, nous, et je dis bien nous, parce que en ce moment, même si personnellement je suis ni affilié au GUD, ni affilié au RAID, ni affilié à l'UNI, je les considère comme des compagnons de lutte pour l'instant. D'accord. Même si peut-être que dans 6 mois, je ne partagerai plus leur avis sur quoi que ce soit. Pour l'instant, ils sont contre le blocage et je le suis également. Ça fait quand même déjà un gros point, surtout dans l'actualité.
Mais tu fais partie d'une association quelconque? T'es encarté quelque part ou...
Alors, j'ai été encarté, et ça va faire sourire à la fin de l'année, à un certain nombre de gens. J'ai été encarté pendant... Et j'ai toujours ma carte d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas rendue. Mais j'ai été encarté pendant 2 ans à l'UNEF.
D'accord, ouais.
Donc, c'est vous dire que, si vous voulez... Bon, alors, j'ai évidemment viré ma cutie, c'est de me faire...
Ok, raison. Ouais.
Mais, si vous voulez, j'ai quand même un profond respect pour la part de l'UNEF qui n'est pas extrémiste. Et cette part est majoritaire, ça je le sais. À Nanterre, évidemment, c'est beaucoup moins net, puisqu'à Nanterre, c'est le lieu, par excellence, où les révolutionnaires, les communistes, etc., se regroupent. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de l'UNEF qui est gangrénée par les jeunesses communistes révolutionnaires. Mais je sais que l'autre partie de l'UNEF est volontaire. Elle veut vraiment le retrait au CPE parce qu'elle est de gauche, elle est socialiste, et pas parce que c'est pas une majorité casseuse, si vous voulez. Même donc, si le terme est pas très joli, mais si vous voulez, c'est ça. Donc moi, je connais très bien, si vous voulez, les coulisses politiques de l'université de Nanterre.
Mais donc, je comprends bien, je t'interromps juste, donc il y aurait quand même une partie de la gauche qui serait pour une résolution à l'amiable, pour une façon un peu plus démocratique de faire. Ou au contraire, ils sont un peu les mains dans les poches et regardent ailleurs pendant que leurs copains d'extrême gauche font le boulot.
Moi, je pense que c'est plutôt la première. Il y a une partie de la gauche, si vous voulez, dont le grand représentant, malheureusement, parce qu'il est quand même aussi charismatique, un humoriste l'a qualifié de beignet, si vous voulez, pour vous dire un peu charismatique, c'est François Hollande.
Ah oui, oui. Donc,
François Hollande, qui est donc secrétaire général du Parti Socialiste depuis un certain nombre d'années, maintenant. Bon, mais même s'il n'est pas charismatique, il a le mérite de faire son travail, on va dire. Bon, le truc, si vous voulez, c'est que à sa ressemblance, même si on sait que le Parti Socialiste est profondément divisé depuis la question du référendum en mai dernier, on sait quand même que les socialistes, si vous voulez, ne veulent pas ce qui se passe là. Moi, j'en suis convaincu. J'ai parlé avec beaucoup de mes amis socialistes, parce que j'en ai beaucoup. J'ai été à l'UNEF, donc c'est vrai que par la force des choses, j'ai beaucoup d'amis socialistes. Et je sais que, si vous voulez, ces gens-là, ils sont vraiment contre le CPE. Ils pensent que c'est une précarisation.
Ouais, voilà. Mais d'un côté, ils se frottent les mains. On a vu Jacques Lang faire le beau quand même à la télévision en parlant du CPE. Ça sent quand même très fort les élections de 2007. On ne sait pas si justement Villepin va pas lâcher pour cette raison-là précisément. On les a vus aussi à l'Assemblée intervenir, demander le retrait. Quand même, alors, on sent que les socialistes, d'un côté, on se demande s'ils sont pas derrière tout ça, parce que ça leur rend quand même grandement service à quelques mois du début de la campagne, quand même, non?
Oui. Non, je vois bien ce dont vous parlez. Bon, juste pour répondre par rapport à Jacques Lang, j'ai envie de dire que Jacques Lang, si vous voulez qu'il fasse le beau, malheureusement, c'est presque une habitude. Donc, qu'il soit, si vous voulez, qu'il soit socialiste ou pas, j'ai envie de dire qu'il aurait fait le beau de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien les chemises roses, et donc voilà, hein, il s'affiche comme tel. Ensuite, par rapport à Dominique de Villepin, il ne lâchera pas, parce que s'il lâche, il perd toute chance d'être président de la République. Aujourd'hui, l'opinion publique, même si dans les sondages il a baissé, moi honnêtement...
Il n'a aucune chance d'être président de la République.
Comment ?
Il n'a aucune chance d'être président de la République. C'est quand même vendu, ça, non ?
Honnêtement, personnellement, je vous avoue que je ne sais pas. Parce que c'est vrai que son très gros concurrent, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui a quand même été présenté comme celui qui a résolu les émeutes de novembre 2005. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je pense que sa politique de l'emploi, pour la plupart de la population, elle a marché. Le CNE a fait diminuer le chômage. Et ce n'est pas moi qui le dis, ni les quotidiens, ce sont des revues économiques sérieuses. Le CNE, donc le contrat nouvelle embauche dont est issu le CPE, le contrat nouvelle embauche a marché. Alors, on ne sait pas s'il va marcher à long terme, on ne sait pas si c'est véritablement une bonne chose, mais on sait qu'il a créé des emplois. On sait qu'il a à peu près créé 100 à 110 000 emplois. Ce qui est quand même non négligeable dans un contexte de chômage grave. On sait également que depuis que Dominique de Villepin est au gouvernement, et depuis qu'il est chef du gouvernement, le chômage n'a cessé de baisser. Et la grande question des Français aujourd'hui, c'est cette question de l'emploi. Les Français craignent pour l'emploi. Okay. Donc, je ne suis pas convaincu, honnêtement, que Dominique de Villepin ne soit pas présidentiable. Et je pense qu'à mon avis, si là il lâche, il aura l'image d'un faible. Il aura l'image qu'il a été vaincu par une minorité, et il aura l'image enfin que l'homme d'action et de conviction qu'il s'est tellement qu'il a tellement clamé être, ben finalement on n'en est rien.
D'accord.
Donc, alors, il perdrait toute crédibilité. Ça, je pense au contraire qu'il faut qu'il lui.
Écoute,
qu'il
ça se tient, oui, ça peut sembler être le cas. Donc pour l'instant, en tout cas, il a l'air de tenir. Maintenant, revenons un petit peu sur Nanterre et sur ton action. Donc toi, tu as quitté l'UNEF, mais tu as décidé de monter un mouvement. Je sais pas si vous portez un nom, mais tu as décidé de réagir un petit peu à cette obstruction des salles de classe, en fait.
Voilà. Alors en fait, depuis le premier jour où les blocages ont commencé. Nous avons débuté, je suis désolé de reparler de mon blog, mais c'est sur le blog que tout a débuté. Et donc nous avons commencé à parler de ce qui s'était passé.
Là, il nous faut juste, pour ceux qui nous écoutent, l'adresse du blog.
Alors, donc l'adresse du blog, c'est http://, et donc là directement verka.mon-blog.org. Donc verka.mon-le-du-milieu, pas celui d'en bas. blog.blog.org.
D'accord, donc je le mettrai après l'émission en ligne, et puis je rappelle donc à nos auditeurs que ceux qui veulent poser des questions ou éventuellement intervenir en direct peuvent en faire la demande via l'interface chat de Skype qui est sur le site du BAFWeb. Alors on continue, alors en quoi ça consiste ?
Alors en fait, si vous voulez, moi personnellement, ce que j'avais plus, je n'ai pas réellement lancé de mouvement. Simplement, si vous voulez, le blog étant aujourd'hui l'un des moyens d'expression les plus courus, j'ai simplement donné mon avis sur ce qui se passait. Et puis, le nombre de connexions a tout simplement explosé sur mon blog. Les gens ne pouvant plus aller en cours, ils allaient sur Internet. Hein, il faut dire les choses clairement. Et donc, si vous voulez, ça a pris forme. Aujourd'hui, j'ai quand même 200, 300 à 400 visiteurs par jour. Et pour les meilleurs jours, parfois 500. Donc, c'est quand même une explosion pour ce blog. Et puis, petit à petit, grâce à des gens qui font donc partie, qui sont dans mes amis proches, on a découvert d'autres blogs autour de nous, avec qui nous nous sommes mis en contact. Nous avons donc échangé des informations, nous avons échangé des choses, et puis finalement, nous avons tous, moi personnellement, je suis arrivé un peu en retrait, donc c'est vrai que j'ai pas participé à la décision, mais un sitting donc a été organisé, donc dimanche à 13h à l'hôtel de ville de Paris, sur les marches de l'hôtel de ville de Paris. Donc le principe, c'est s'asseoir en t-shirt blanc et de dire qu'en gros, nous sommes contre les blocages. Donc c'est une manifestation pacifique. Et donc voilà, le mouvement aujourd'hui, tous les jours à Nanterre, quasiment, il y a des sittings donc de ce type-là, évidemment avec beaucoup moins de monde, sur les marges du bâtiment F, qui est donc le bâtiment de droit, le bâtiment symbolique, imprenable, mais malheureusement, qui a quand même réussi à être bloqué. Et puis, donc si vous voulez, il y a ce type d'action tous les jours.
Mais donc vous ne bloquez pas les bloqueurs, vous ne bloquez pas les grévistes.
On a essayé de forcer les bloqueurs à nous laisser rentrer. Et ça s'est mal passé.
Ah oui, ça a été chaud, alors on raconte.
Donc ça, c'est vrai que malheureusement, on a eu quand même plusieurs blessés, hein, il faut quand même le signaler.
Ah oui.
Des gens qui se sont pris des claques, et puis même plus grave, hein, donc c'est ce que je vous disais. L'affaire du jeune étudiant juif qui a été poursuivi par 70 lycéens. L'affaire du jeune homme qui a donc été tabassé par 2-3 étudiants et qui souffre aujourd'hui de multiples contusions faciales. Et puis cette fameuse jeune fille, alors dont l'histoire est complètement, il y a autant de versions que de parties. Donc il y a deux versions. Il y a la version comme quoi elle serait tombée toute seule en voulant forcer un blocage parce qu'il commençait à pleuvoir et qu'elle avait une attelle à la jambe et avec ses béquilles elle aurait glissé. Donc ça c'est la version évidemment des grévistes. Et puis la version des entre guillemets contre grévistes, c'est de dire qu'on l'a poussé, hein, très clairement. Et donc voilà, donc là si vous voulez, donc il y a ces violences là, mais c'est vrai que le mouvement au départ, on ne voulait pas, si vous voulez, qu'il y ait un véritable démarrage de cette façon là. On pensait même pas que ce serait possible.
Mais donc niveau mobilisation, vous n'arrivez pas à être assez nombreux pour pousser les grévistes dehors, en fait, c'est ça?
Ben si vous voulez, en termes de nombre, de toute façon on est plus nombreux. Le problème aujourd'hui, c'est que
personne ne se bouge. Ouais.
C'est plus une question, si vous voulez, forcément de blocage maintenant. Si vous voulez, les universités sont bloquées et on sait très bien que, si vous voulez, à part si on envoie un commando qui est de Saint-Cyr et qui fait l'école militaire et de 50 étudiants plus musclés les uns que les autres qui vont dégager les grévistes, on sait qu'on n'a aucune chance d'arriver à forcer un blocage.
Tu sais donc, que hier, on a vu ça sur TF1 dans la Marne, il y avait donc des exercices de l'armée de terre pour la défense des ambassades avec les chars Leclerc, enfin toute l'armée française au grand complet. Ça aurait fait plutôt joli, je pense, hein, dans les cours de Nanterre. Ça aurait été... Ils sont peut-être en train de préparer quelque chose, tu crois pas?
Là, en fait, c'est vrai que, pour l'anecdote, j'ai croisé les militaires aujourd'hui en étant à Paris, et j'ai presque voulu aller leur demander, mais quand est-ce que vous intervenez? Et bon, enfin, je l'ai pas fait, parce que bon, j'avais peur qu'ils le prennent mal, enfin, on sait jamais dans ce genre de choses, mais bon. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut montrer, et je dis bien à la France entière, que nous sommes plus nombreux. Il y a eu une manifestation déjà mercredi, dans le quartier latin, au Panthéon, de gens qui étaient contre le blocage. Malheureusement, je n'y suis pas rendu, mais à culpa. Je n'y suis pas rendu, j'ai eu tort, je le sais. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai un peu peur, moi, d'aller dans le quartier latin aujourd'hui. Je le reconnais, hein, étant donné que c'est quand même le quartier où se passent tous les affrontements entre casseurs et CRS. Et donc, cette manifestation, vraisemblablement, s'est très bien passée. Mais donc, je pense que le gros point, ça va être dimanche, là.
Enfin, moi justement là pour la manifestation d'aujourd'hui, j'ai eu donc un petit mot avant qu'il parte à France 2 de Boardman de l'Uni, qui m'a dit que c'était à tout casser pour toute la France, 100 000 manifestants. Ça mollit, on dirait quand même. Hein.
Ouais, bah oui. Si vous voulez, le problème aussi, c'est que de toute façon, comme tout début de mouvement, c'est au départ les bloqueurs étaient quand même peu nombreux. Il y avait beaucoup de manifestants, mais peu de bloqueurs réels. Donc là, c'est pareil. Il faut arriver à mobiliser les gens. Il faut arriver à leur montrer que finalement, on est là, on est présent. Et il faut leur montrer surtout que notre université, notre droit d'étudier, c'est ce qui est primordial. Nous avons une liberté de mouvement, une liberté publique d'aller et venir qu'il faut défendre. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à tous les étudiants qui sont contre les blocages mais qui n'osent pas venir aux manifestations. moi personnellement, pour l'instant, je sais que demain, je diffuserai des tracts pour ce sitting dimanche. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire comprendre aux gens. Il faut faire comprendre aux étudiants qu'il faut qu'ils descendent dans la rue, qu'il faut qu'ils descendent, qu'ils viennent aux manifestations, que ce sont des manifestations politiques, pacifiques, politiques et pacifiques, forcément politiques, toute manifestation est politique, mais surtout pacifiques, que ce sera normalement encadré par les forces de l'ordre. Donc, il faut voir qu'il n'y a normalement aucune crainte à avoir, et que la seule crainte que nous ayons, que nous devions avoir aujourd'hui, c'est que les cours ne reprennent pas. Parce que je prends l'exemple de Nanterre, le fait que la fac a été réouverte pour une semaine banalisée de débats, on sait très bien qu'à la sortie de cette semaine-là, il n'y a aucune raison que le blocage ne recommence pas. Ouais, parce que je doute que d'ici la fin de cette semaine, c'est-à-dire mercredi prochain, je doute que monsieur de Villepin ait enlevé son projet de loi CPE-CNE. Donc les blocages recommenceront. Et donc indéfiniment, on va être grave. Et finalement, quand est-ce que nous aurons nos examens? À aucun moment. Quand est-ce que nous allons avoir cours, même?
Et vous n'avez pas voté une seule fois sur la grève, en fait.
Ben, si vous voulez, on vote à chaque fois dans les assemblées générales.
Enfin,
les assemblées générales, si vous voulez, c'est quoi? C'est 2000 personnes.
Mais elles ont autorité pour faire voter?
Elles n'ont aucune autorité, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on dit qu'elle a une légitimité, puisque là, on peut débattre. Et que le problème d'un référendum, c'est qu'il n'y a pas de débat avant. Donc, on dit que le référendum n'est pas démocratique. Mmh. Et qu'en plus, il n'a pas été pris en consultation, je veux dire, avec les principaux mouvements de mobilisation. Donc on dit que la question, elle a été posée de façon tyrannique, et je trouve que le terme est quand même rigolo de la part de gens qui ne sont pas très éloignés hein, de cette tyrannie. Mais voilà, donc on est dans une situation où l'Assemblée générale est prétendue légitime, mais elle ne l'est absolument pas, mais c'est elle finalement qui décide quand même, puisqu'elle a quand même fait plier notre président. Alors,
est-ce qu'ils ont des chefs qui sont toujours les mêmes ou est-ce que ça tourne? Parce qu'à la télévision, on donne l'impression que ça tourne, donc finalement, c'est un mouvement spontané. Moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est ce qu'ils vendent à la télévision.
Alors, en fait, il faut vraiment préciser les choses. Il faut dire que, si vous voulez, il y a un conseil, un comité de mobilisation nationale, mais les membres sont réélus toutes les semaines, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a jamais de leader, si vous voulez, qui se détache. Bon, néanmoins, il faut quand même, ça, c'est officiel. Moi, à Nanterre, je peux vous dire le nom du leader. Très franchement, c'est les deux noms des leaders. Bon, je connais pas en tout cas physiquement, je les connais très bien. Il y en a un qui s'appelle Xavier, qui est donc au bureau national des jeunesses communistes révolutionnaires.
Donc c'est le camarade Xavier, d'accord, ouais.
Voilà, le camarade Xavier, qui lui donc est véritablement, si vous voulez, un leader du mouvement. C'est quand même lui avec ses compagnons et ses camarades, puisque c'est le terme qu'ils aimeraient que j'emploie, avec ses camarades qui ont lancé quand même le mouvement de la grève. Bon, il y a lui, et puis quand même, en dépit de ce que nous montre la télévision, en nous montrant à chaque fois les présidents des UNEF diverses et variées des diverses universités, on sait très bien que l'UNEF est quand même débordée dans bien des universités sur l'histoire. Elle ne voulait absolument pas que ça parte comme ça, et on le sent. Si vous voulez, elle ne voulait pas que ce soit bloqué tous les jours. Malheureusement, elle s'est fait quand même avoir. Et donc, même si à la télévision, on interviewe systématiquement les présidents de l'UNEF, on sait que finalement, en tout cas en ce qui concerne Nanterre, c'est le leader des JCR qui est également syndicat de l'UNEF, mais bon, qui est beaucoup plus leader des JCR dans ce genre de moment que syndicat de l'UNEF, et le leader de la GEN, qui sont quand même les deux figures de ce mouvement social, enfin, si on peut appeler ça social, à Nanterre.
Et donc finalement c'est piloté par l'extrême gauche, c'est classique, c'est les bonnes vieilles méthodes. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les foutre dehors? Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de demander un vote à bulletin secret pour tous les étudiants?
Alors,
que le peuple décide une fois, quoi.
Oui, mais alors le problème, si vous voulez, c'est que ça a déjà été demandé. Et que il y a eu 4 votes référendaires qui ont été demandés, 4 qui ont été annulés pour des raisons de blocage, de violence, etc. Il y en a eu qui ont eu lieu. Notamment, il y a une fac, je crois que c'est à Brest, la faculté de lettres a voté la poursuite de la grève. Il y avait 4500 étudiants et quelques, 1900 ont voté, et à 80% de ces 1900 ont voté pour la grève, pour la continuation du mouvement. Donc le problème, on est devant un problème, mais qu'on connaît au niveau beaucoup plus général, au niveau des élections, des représentants, etc., devant, si vous voulez, un manque de conscience politique flagrant. C'est-à-dire que les gens, je suis désolé de le dire et j'espère qu'ils me pardonneront, mais les gens qui étaient à Brest en lettres sont coupables de ne pas avoir voté. Ils sont coupables parce que il n'y a que 1900 personnes qui ont voté et c'est quand même un scandale sur 4500. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la moitié qui a voté.
Est-ce qu'il y a eu des menaces, des dépressions, ce genre de choses?
On ne sait pas. Disons que si vous voulez, maintenant apparemment la seule issue qui nous reste, en dehors de ces mouvements donc pacifiques que nous faisons régulièrement et dont dimanche est le paroxysme, disons le symbole, à part ces mots-là, il faut porter plainte. C'est ce qui s'est passé à Rennes. Ça a marché. À Rennes, il y a une vingtaine d'étudiants qui a porté plainte et la justice leur a dit, bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, ils peuvent aller en cours. Mais le président de l'université était très réaliste et très pragmatique. Il a dit, bah oui, mais bon, ils vont bloquer l'autre entrée. Alors, ce qui se passe à Toulouse, c'est que maintenant, pour aller en cours, on est entouré de vigiles. Donc, on rentre dans une totale. C'est-à-dire à donner raison aux étudiants qui voulaient aller en cours, mais que pour aller en cours, ils sont obligés d'y aller entourés des vigiles qui sont avec leur tonfa ou leur matraque, appelez ça comme vous voulez, etc. Donc c'est quand même, enfin si vous voulez, on est dans une blague, mais une blague qui fait pas rire. Donc c'est quand même ça qui est quand même violent, si vous voulez.
Et toi, de ton côté, t'as pas songé à poser plainte, surtout suite aux violences qui ont été commises?
Le souci, c'est que pour porter plainte, il faut faire ça dans les règles. Alors, Monsieur Guinaud, qui est qui fait partie de l'administration de Nanterre, nous a dit qu'il nous fournirait les lettres type pour porter plainte, etc. Néanmoins, si vous voulez, le problème concret, c'est que c'est un pas à franchir. Psychologiquement, c'est pas évident d'aller dire, je porte plainte contre des gens que je connais. Parce que moi, en ce qui me concerne, c'est ça. Je porte plainte contre des gens que je connais d'avoir lancé ce blocage, de l'avoir perpétué. Et moi, si vous voulez, ça, franchement, personnellement, ça me pose un problème de conscience. C'est que il y a beaucoup de bloqueurs que je connais. Il y a des gens de mon amphithéâtre, en histoire, et puis il y a également des gens de l'UNEF que je connais qui sont pas des violents. Alors c'est vrai que, si vous voulez, parmi les gens de la GEN ou de la CNT, donc c'est vrai que j'aimerais bien les déloger de l'université. C'est vrai que je serais bien content de voir qu'ils soient condamnés à cesser de bloquer les bâtiments. Le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas eux seulement les bloqueurs. Par contre, on sait que c'est eux majoritairement les casseurs. Ça, oui. Donc, à la limite, ce serait plus pour ça. Il faudrait qu'à la limite, ils agressent des gens dans la rue et que ces gens-là portent plainte. Et à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose. C'est plus ça. De toute façon, c'est ça ou l'armée. Hein. Je veux dire, honnêtement, aujourd'hui, avec les débordements, avec la forme que prend le mouvement.
Est-ce que ça va continuer ou est-ce que, comme pour les banlieues, ça va gentiment se calmer, ils vont se fatiguer et puis on va passer à autre chose?
Il y a une différence fondamentale entre les banlieues et aujourd'hui. Au moment des émeutes des banlieues, il y avait un malaise social. C'était une véritable. Les casseurs étaient. Évidemment, il y avait des gens, c'est des casseurs, hein, tout court, qui cherchaient qu'à casser. Bon, ça, il y en a toujours, hein, ces minorités-là, on les connaît. Mais on sentait qu'il y avait un profond malaise social. Un manque d'emploi, un manque d'argent, une précarité grandissante, une pauvreté, etc. Ici, les gens qui cassent sont uniquement des casseurs, des anarchistes, des gens qui veulent mettre le chaos, et je précise bien parce que c'est ça, qui veulent mettre le chaos à Paris, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent. Hein, je veux dire, moi je voyais les slogans dans mon université de la CNT, c'était « Nous sommes pour une fac autogérée, travaillons tous, moins, mais et autrement. »
Enfin, moi je suis quand même terriblement surpris par la survivance du zombie communiste en terre française. Pour donner un exemple, tu vois, en Suisse, le communisme était interdit depuis les années 40-50 par là autour. Et la Suisse a même eu un plan de riposte nucléaire contre Moscou, tu vois, qui a commencé en 74. On avait l'arme nucléaire, mais en pièces détachées, tu vois. Et bon, c'était un truc qui a été terminé en 81, je crois. Alors bon, à cause de ça, on a une gauche, un peu un parti socialiste et des Verts qui sont quand même très très à gauche, mais on n'a pas, même chez les plus marqués, par exemple en Suisse romande à Genève, on n'a pas quand même cette littérature, ce lyrisme socialo-communiste qui continue de chanter chez vous. Il y a encore des gens qui croient, après 70 ans du RSS, qui croient vraiment qu'on va pouvoir travailler dans des machins autogérants. Enfin, moi, ça me fait quand même un peu bizarre, quoi.
Si vous voulez, bon, moi, je suis pas sociologue. C'est plus une affaire de sociologie que d'histoire, là. Enfin, mais je peux quand même vous donner au moins des éléments de réponse. À mon avis, s'il y a une survivance du communisme en France, c'est tout simplement parce que le pays ne va pas bien. Dans tout pays qui va mal, qui va très mal, parce que même si c'est vrai, on dit toujours oui, la France est sixième puissance économique mondiale. Bon, déjà c'est remis en cause par certains, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a 10% de chômage officiel, donc on sait que c'est quand même très proche en fait d'un 17-18%, parce qu'on ravit des gens de la NPE, parce que des gens qui touchent les ACEDIC ou le RMI, etc., ne sont pas comptabilisés. Par exemple, on a 1 250 000, je crois, personnes qui touchent le RMI. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je suis pas sûr du chiffre. Je sais plus. Enfin, il me semble que c'est ça. Donc, et ces gens-là ne sont pas comptabilisés comme chômeurs.
Ouais, c'est le tiers.
Le RMI, quoi. C'est le. Donc, le RMI, juste pour la précision, c'est le revenu minimum d'insertion. Donc, si vous voulez, c'est un petit revenu qui permet de survivre. Mais je précise bien survivre. Et parfois pas. Donc, si vous voulez, on est dans un contexte tout simplement socialement et économiquement. Je dirais surtout économiquement, la France ne va pas bien. La France ne va pas bien. Et quand un pays ne va pas bien, notamment économiquement, on a une montée des extrêmes. On l'a très bien vu d'ailleurs, au présidentiel de 2002. Ça a été catalogué de cette façon-là. Bon, alors après, c'est vrai qu'au niveau du Front National, on sait que c'est un pot pourri, qu'il y a de fait des gens qui sont des néo-nazis ou néo-fascistes, comme on préfère les appeler. Moi, je pense honnêtement que les néo-nazis sont quand même limités, mais bon, je préfère dire néo-fascistes. Je pense qu'il y a en effet au Front National des néo-fascistes. Bon, c'est toujours pareil. On fait des généralisations de petits groupes. C'est toujours la même chose. Mais donc, on avait catalogué, si vous voulez, la montée du Front National, qui est donc le parti d'extrême droite par excellence en France, comme révélateur de ce qui, justement, du malaise social français, de ce que notre président de la République avait qualifié dans un moment de lucidité comme la fracture sociale. Et donc, c'était quand même le terme, était assez ouais. rigolo. Bon, mais bon, donc la fracture sociale, c'est ça, c'est donc le malaise social, c'est 2 000 milliards d'euros de dettes. On ne sait honnêtement pas comment on va pouvoir combler ce déficit épouvantable qui ne cesse de grandir avec la sécurité sociale, avec les retraites, etc. Donc, c'est ça, à mon avis, qui fait que le communisme perdure. Parce que, si vous voulez, on nous dit en France, si vous voulez, quelqu'un comme Villepin est un libéral. Il faut quand même voir ça. En France, on n'a pas de libéraux. Ça existe. Enfin, si, il y a Alain Madelin, si vous voulez, qui est un libéral, mais bon, qui a honnêtement aucun pouvoir.
D'accord.
Qui a aucune influence, enfin, très limitée. Donc, dès qu'on est à droite, si vous voulez, enfin, je veux dire, il y a un parti centriste qui s'appelle l'UDF, et qui est considéré comme déjà libéral. Alors que bon, bah, enfin, je veux dire, c'est quand même. Donc le problème est là, si vous voulez. On est très vite à gauche en France.
Mais est-ce que tu penses justement que le peuple a assez de droits en France? Je prends l'exemple, je veux dire, un tel cas est arrivé en Suisse, ben, ça aurait été assez simple, on aurait fait une initiative, un référendum avec 100 000 signatures, c'est quelque chose de bouclé. En Suisse, il n'y a pas fréquemment de manifestations, et quand il y en a, c'est très très local, c'est relativement calme. Parce que le peuple a toujours le choix de pouvoir intervenir, soit avant que la loi soit votée, soit après, soit pendant, c'est un petit peu particulier. Il semblerait que ça n'existe pas chez vous, ce genre de choses.
Là, on a une véritable défaillance au niveau démocratie. Une défaillance au niveau démocratie, au niveau de la démocratie française, non seulement parce qu'on ne peut pas intervenir au niveau des lois, et c'est quand même problématique, si vous voulez, et d'autre part parce que si vous voulez, le moyen d'expression, une fois l'Assemblée nationale élue, donc le Parlement, est quand même fortement limité. Alors c'est vrai, il y a deux types de démocrates. Il y a les démocrates qui vous diront, ben voilà, on a élu des représentants pour une durée, et ben pendant cette durée on ferme notre gueule. Et puis il y a les autres démocrates qui vont vous dire, ben nous on élit des représentants, mais on veut quand même avoir un droit de regard. Alors après, chacun choisit son camp. C'est vrai qu'en France, on n'a pas tellement le choix. Hein. La preuve en est, là, aujourd'hui, c'est que si on voulait vraiment organiser un débat aujourd'hui, parce qu'on sait, on pense en tout cas que la majorité nationale, qui est donc UMP, on pense honnêtement que la majorité ne serait plus aujourd'hui. Mais on n'en est pas sûr. Tout ça, c'est des allégations. Donc bon, bref, c'est une situation très complexe. Néanmoins, si vous voulez, on n'est pas sorti du communisme, et on n'est d'autant pas sorti du communisme qu'il a une légitimité historique. Il a une légitimité historique parce que dans les résistants français, on a mis en valeur, et moi je le sais parce que il y a 2 ans je passais mon bac et c'était au programme, on a mis en valeur l'action des communistes dans la résistance française. À tort ou à raison, ça c'est pas la question, mais on l'a mis vraiment en avant en disant que c'était quand même, enfin, qu'ils avaient grandement aidé à la libération de la France. Donc si vous voulez, il y a un passé communiste en France.
D'accord,
qui n'existe probablement pas en Suisse ou en Angleterre, par exemple.
Entendu.
Donc il y a à la fois un défaut de démocratie, Ça, c'est clair, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas organiser un référendum sur une loi. Là, ça aurait été génial. Vous imaginez, un référendum sur le CPE aujourd'hui, ça révolutionnerait la France. Là.
Bah, c'est clair, ça, franchement, mais
ça devrait tout tomber, pouvoir se faire. Ça ferait tout tomber, mais le problème, c'est que de toute façon, même si le vote est majoritaire pour ceux qui disent le CPE est une bonne chose, on va dire, mais oui, mais enfin, c'est un contrat qui s'adresse aux jeunes. Il aurait fallu faire voter que les jeunes. Vous voyez, ça, c'est le type de réaction des grévistes. C'est-à-dire qu'ils trouveront toujours une parade. Et là, je parle par contre grévistes, je fais pas de distinction. Hein. Ils trouveront toujours une parade en disant que c'est pas démocratique. De toute façon. D'accord. Et ça, c'est malheureux parce qu'on n'en sortira jamais. Enfin, on est vraiment parti pour pas s'en sortir.
Ouais, ce serait bien qu'après quand même 200 ans de révolution française, vous ayez enfin accès à la démocratie. Enfin, si jamais la Suisse peut aider à ça, vous êtes les bienvenus. Tu sais ce qu'on va faire, Roland ? On va passer un petit disque le temps que j'essaie d'atteindre l'Uni, parce que pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je rappelle donc à nos auditeurs qui peuvent donc envoyer des messages, poser des questions, éventuellement intervenir s'ils le souhaitent. Voilà, il y en a déjà quelques-uns qui sont plus ou moins annoncés. On verra s'ils sont toujours persévérants dans leur volonté tout à l'heure. Et puis on reviendra ensuite, après ce petit disque, sur vraiment le programme que tu proposes, disons en tout cas pour Nanterre, ce que les contre-bloqueurs prévoient de faire dans les prochains jours. Ça te va comme ça ?
Très bien.
Pour moi, à tout de suite bien. Alors. Hein. Dans deux minutes. Ciao.
Dans deux minutes.
There was this kid who got into an accident and caught and come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Alors voilà, nous sommes de retour sur Radio Bafweb pour la suite de notre consultation, n'est-ce pas, très fouillée sur le problème du CPE. Toujours pas de nouvelles donc de l'UNI, hein, qui a dû rester coincé tout simplement à la France 2. Bon, ben, ma foi, c'est dommage, on les réinvitera la semaine prochaine. Si jamais vous vous sentez d'intervenir, vous pouvez utiliser l'interface de Skype qui est sur le site de www.bafouet.com. Vous nous envoyez un message, on vous rappelle, ou on peut lire votre question, c'est vous qui décidez, c'est assez simple. On retrouve donc notre interlocuteur, hein, je veux dire, notre brillant jeune nantérien à l'université. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle faculté tu es, hein, tu nous avais encore caché ça, Roland. Roland Richard, donc un des nombreux contre-bloqueurs qu'on trouve à Paris et ailleurs, et qui ont décidé de résister à la pression de certains groupes d'extrême gauche qui veulent leur empêcher d'assister à leurs cours et de passer leurs examens. Roland.
Donc, alors oui, juste pour répondre immédiatement à votre question. Donc oui, je croyais l'avoir dit. Donc oui, donc moi je suis à l'université de Nanterre, proprement dit, et je suis en faculté d'histoire.
Histoire, d'accord, ok.
Donc je suis en deuxième année de licence d'histoire. Donc ça correspond à 2 ans après le bac, en gros. Je sais plus exactement quelle est la correspondance en Suisse pour le bac. Je sais plus comment ça se passe, mais.
Oui, enfin maintenant, faut dire que c'est oui, un petit peu compliqué. Ça change un peu tout le temps. Et puis je viens en plus chez nous, c'est en fonction des cantons. Donc il y a 26 bacs différents. Donc on n'est pas rendu si on veut faire les comparaisons. Mais donc c'est d'accord. plutôt une fac de lettres en fait.
On va dire que c'est plutôt une fac lettrée. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. C'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la sociologie, la psychologie, l'histoire. Mais également l'administration économique et sociale, et puis j'en oublie un énorme qui va me revenir, l'ethnologie, l'anthropologie et l'archéologie, voilà.
D'accord.
Donc, tout ce qui est en fait étude de l'homme, d'une façon quelle qu'elle soit, mais il faut juste souligner, la philosophie n'en fait en théorie pas partie, voilà, c'est juste une précision, bon c'est pas d'une grande importance, mais juste pour préciser.
Et donc c'est plutôt un bastion de la gauche? Vu que ce sont les
lettres. Oui, proprement dit, oui, mon bâtiment, c'est le centre névralgique du mouvement. C'est de là d'ailleurs que c'est parti, hein, c'est des sciences humaines, et proprement du bâtiment de sociologie et d'histoire. La plupart des gens qui sont d'extrême gauche ou de gauche profonde sont soit en sociologie, soit en histoire. Mais la sociologie étant vraiment ce qui les études, j'ai envie de dire, privilégiées des gens qui sont de gauche. C'est-à-dire très à gauche et engagé.
Ok. Et comment sont les cours? Est-ce qu'il y a des profs qui sont acceptables ou au contraire c'est plutôt du bourrage de crâne, hein, dans le sens?
Eh bien, écoutez, moi je vous avoue, en fait il y a un professeur là hier, je crois que c'est hier, qui a commencé donc cette fameuse journée de débat là, cette fameuse journée ouverte, qui s'appelle Monsieur Bernard Friot, et qui est vraiment quelqu'un d'extraordinairement intelligent, qui m'a vraiment séduit. Moi, je l'ai eu en cours en sociologie générale l'an dernier, en première année. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent. Bon, donc, évidemment, c'est un marxien. Mais je précise bien, c'est un marxien et pas un marxiste. On fait la différence, en fait, en tout cas en France. Le marxiste est celui qui est pour Marx, mais qui ne l'a pas lu.
D'accord.
Et le marxien, c'est celui qui est pour Marx, mais qui l'a lu, compris, étudié, travaillé, etc.
Ok.
Donc, c'est une différence que je fais un peu moi, mais disons qu'on va faire ça comme ça. Mais aussi, enfin, je veux dire, c'est une différence partagée par un bon nombre de gens. Donc, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, qui n'impose pas son point de vue, contrairement aux marxistes, mais qui fait quand même plus ou moins sentir que lui, il est marxien. Mais, personnellement, ça ne m'a pas frappé que l'université est à gauche. Je veux dire, on sait qu'il y a quand même une grande partie des professeurs à l'université de Nanterre qui sont de gauche. Mais sans citer de nom, je vous avoue avoir eu des profs de droite et des profs qui sont bien de droite. Hein. Je veux dire, c'est quand même assez net.
D'accord. Donc, et pour un étudiant plutôt à droite, donc c'est pas une difficulté que de faire son cursus complet à Nanterre, par exemple?
Non, il suffit de savoir cracher sur les bonnes personnes au bon moment.
Entendu.
Voilà. Mais... Non, mais je veux dire, là, c'est pas une question simplement d'université ou de gauche. C'est une question, si vous voulez, qu'il y a des choses propres, surtout en histoire. Alors là, j'ai envie de dire que là, par contre, c'est vraiment l'histoire où c'est le plus fort, où il y a vraiment des choses qu'il faut éviter de dire. Et c'est pas simplement parce que vous pouvez avoir tort ou raison, mais c'est simplement parce que le fait d'avoir 2 ans ou une année d'histoire derrière vous ne vous autorise pas à remettre en cause l'histoire de quelqu'un qui a fait 8 ans d'études, de toute façon. Donc, dans les 2-3 premières années d'histoire, vous apprenez l'histoire telle qu'elle a été écrite, et c'est tout. Et en attendant, en gros, on vous demande de vous taire. Ce que je trouve pas anormal, moi, personnellement. je veux dire, bon, ben voilà, c'est vrai que si par exemple on commence à raconter, si vous voulez, des choses sur la colonisation, vous allez avoir des gens qui vont vous raconter tout un tas de choses sur la colonisation qui sont fausses et qu'il n'est pas normal, si vous voulez, de pas les sanctionner. D'un autre côté, même si quelqu'un a un point de vue beaucoup plus nuancé sur la colonisation, en gros, il faut apprendre, si vous voulez, il faut apprendre. C'est pas une histoire officielle. Moi, je vais pas jusque là. Mais il y a une histoire qu'il faut apprendre un certain temps avant de pouvoir faire sa propre histoire. En gros, c'est ça.
D'accord.
Mais à Nanterre, on peut être étudiant de droite sans souffrir de discrimination politique. Hein. Ça, oui. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai pas remarqué. Or, pourtant, je suis quand même plutôt... je ne suis pas spécifiquement de gauche. Donc, sans être très marqué à droite, je ne suis pas de gauche du tout.
Et donc, jusqu'à présent, ton engagement donc, contre les grèves, ça s'est passé comment? Est-ce qu'on s'en est pris directement à toi? Au niveau de la réputation, ça va? Est-ce que des professeurs sont intervenus? Comment ça passe?
En ce qui me concerne directement, lorsque j'ai lancé mon premier article sur l'affaire, les commentaires étaient très défavorables à ce que j'avais écrit.
Ouais.
Donc, c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai pas mal souffert. Bon, mais je veux dire, c'est le but aussi. Hein, mais d'un autre côté, si vous voulez, non, personne ne s'en est pris à moi directement. Mais c'est également parce que je me suis quand même convaincu de ne pas prendre part à la violence dans les forcings des blocages. J'ai pas voulu, si vous voulez, rentrer dans les gens. Surtout qu'en plus, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a des gens que je connais. Donc ça m'est difficile, si vous voulez, de forcer un blocage ou sur, je vais dire une bêtise, mais sur 20 personnes, il y en a peut-être 5-6 que je connais. Donc ça m'est vraiment difficile, si vous voulez, même si c'est pas forcément des gens que j'apprécie, mais c'est pas des gens. C'est alors après le mouvement a évolué. C'est vrai qu'on a eu des casseurs, des lycéens antisémites, on a tout eu. C'est vrai que cela, ça me poserait pas de problème de leur rentrer dedans aussi bien verbalement même que physiquement s'ils devaient s'en prendre à moi. Mais mais c'est vrai que non, j'ai pas eu de critiques exacerbées. C'est vrai que sur le blog il y a des commentaires qui sont inamicaux, mais j'ai pas eu de violence, j'ai pas eu de menaces. Mais c'est aussi du fait que j'ai été un an et demi à l'UNEF. Donc c'est vrai que les gens ne veulent pas m'attaquer parce qu'on s'apprécie, on se respecte mutuellement. Même si là, on a une opposition notamment de forme, plus que de fond, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la question vraiment le CPE, mais sur la forme que ça a pris, c'est vrai qu'on n'est pas du tout d'accord. Mais non, j'ai pas eu de difficultés. J'ai envie de dire que j'ai eu plus de difficultés avant. Je me suis fait traiter de petit bourgeois à de nombreuses reprises par des militants de la gêne.
Non, bon, quand même. Petit bourgeois.
Ah oui. Non, bah, oui, bah, ça, si vous voulez, ça c'est le folklore nanterre. Vous avez un étudiant marxiste, et là, je précise bien marxiste. Hein. Vous avez un étudiant marxiste qui vient vous voir en vous disant, bah oui, mais enfin, vous rendez pas compte, on va expulser des gens de la cité universitaire. Donc c'est une espèce, si vous voulez, de résidence où des étudiants qui n'ont pas trop de moyens ou qui habitent loin peuvent habiter. Le temps de leurs études.
D'accord,
on va expulser des gens qui ont pas payé, etc., mais ça va les renforcer dans la précarité, ce qui n'est pas entièrement faux. Et bien, alors moi je dis, mais oui, mais enfin, le souci c'est que en fait moi c'est plus un nom à la personne qu'un nom à la cause. Donc, et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui même, hein. Je veux dire, je suis incertain sur la question du CPE, honnêtement je ne sais pas quoi en penser. Mais par contre, du fait même qu'à la tête de ce mouvement, il y a des gens, c'est la GENE, il y a des gens, c'est la CNT, et puis il y a des gens, c'est JCR, je ne soutiendrai jamais un tel mouvement. C'est vrai, c'est une question de principe, si vous voulez, à ce niveau-là.
Donc en fait, l'origine de ton action, c'est plutôt « je veux assister à mes cours et je me fous un peu du reste ».
Je me fous du reste, mais d'un autre côté, si vous voulez, je suis aussi l'un des seuls à avoir fait une proposition qui était, j'ai proposé clairement ça à des gens de l'UNEF, je leur ai dit « moi, je suis pour qu'on fasse des assemblées générales le midi ». Donc au moment du déjeuner, où chacun vient avec son sandwich, et où on fait un débat de fond sur le CPE sans bloquer les bâtiments. Où on invite des juristes, des économistes de Nanterre, pour faire des propositions de modification du texte de loi, ou d'enrichissement, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. On m'a dit, ben oui, mais il n'y aura personne. Ben oui, pour cause. Il n'y aura personne parce que tout simplement... c'est pas des façons d'agir. Et que les gens, maintenant, ils en ont marre. Il y a plein de gens, maintenant, qui sont pour le CPE. Rien que parce qu'ils en ont marre du blocage. Ça, je le sais aussi. Alors que, enfin, ils sont presque pour le blocage par réaction. Moi, je me suis fait traiter de réactionnaire. Bon, mais c'est ça. C'est-à-dire que, au sens propre du terme, je réagis. C'est que, si vous voulez, c'est insupportable. c'est insupportable d'être privé de ses cours. Et donc, le sens de mon action, c'était ça. C'était de réagir. Il y a une phrase, que ça fait longtemps que je l'entends chez moi, mais c'est Bernanos qui dit ça. C'est seul un cadavre ne réagit pas au ver qui le ronge. Bon, bah, précisément, moi, je suis pas un cadavre. J'ai envie d'aller en cours. Et le ver qui me ronge, je le vois bien. Et en plus, il est tout petit. Mais par contre, il fait beaucoup de bruit. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que même si c'est un ver, et même si c'est tout petit, bah, ça fait quand même, ça bloque les universités, ça fait des universités en grève, ça fait une déviance du mouvement, mouvement ultra violent, comme on l'a vu avec des agressions sur les forces de l'ordre, des échelles balancées du quatrième étage sur les forces de police, avec des barrières en métal sur les forces de l'ordre. Rien que le premier jour, rien que pour déloger les gens de la Sorbonne dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu 31 blessés parmi les forces de police.
Non mais c'est effarant, je veux dire, c'est... Donc, ce qui est effarant, c'est d'entendre des types encore utiliser des expressions style réactionnaire aux petits bourgeois, on a vraiment l'impression d'être dans un non-camillo. Et puis, ça prouve bien que finalement, l'extrême-gauche a basculé dans une espèce de fascisme rouge. C'est effarant de voir ce genre de truc-là. Mais vous n'avez pas les moyens de les foutre dehors, je veux dire, il faudrait quand même un peu se mobiliser. Alors justement, parlons de la mobilisation. Donc si j'ai bien compris, il y a une manif dimanche prochain, donc je viens de mettre donc sur le site du Bafweb le lien de ton blog. Maintenant je l'ai retrouvé, je l'ai mis. Et donc là apparemment tu fais un petit peu le suivi de l'action et des dernières nouvelles.
Oui.
Qu'est-ce qui se prépare dimanche prochain, clairement?
Alors clairement dimanche prochain, nous invitons tous les étudiants qui sont contre le blocage en région parisienne et même ailleurs. S'ils veulent, hein, je veux dire, on peut toujours s'arranger pour essayer de loger les gens. Évidemment, si c'est dans une limite de flats disponibles, c'est toujours pareil, hein, mais bon. S'il y en a certains qui sont vraiment très motivés pour venir à ce mouvement, je veux dire, on peut toujours s'arranger. Et qui donc viennent, le but, c'est de faire une manifestation pacifique et silencieuse. Alors, sur l'affaire du silence, c'est encore en débat, je crois, donc on n'est pas sûr qu'on fera ça.
C'est pas un peu mélodramatique?
C'est mélodramatique, mais d'un autre côté, ce qu'on vit, c'est quand même tragique. Hein. Notamment, je veux dire, on voit quand même les débordements que ça prend. Le but, si vous voulez, c'est de faire exactement l'inverse de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, nous, on va s'asseoir sur les marches de la mairie de Paris. On va pas faire de bruit. On va pas avoir de gestes violents. On va pas hurler. On va, à la limite, je pense qu'il y aura toujours des petites discussions, si vous voulez, entre les gens. Mm-hmm. Mais le but, c'est une action de paix. Exactement l'inverse de tout ce qu'ils font. Eux, ils hurlent, ils bougent, ils frappent. Nous, on bougera pas, on sera en blanc, alors qu'eux, ils sont en noir avec des foulards autour du visage.
Je vais être un peu dur, je trouve joli de se prendre pour Gandhi, mais est-ce que ça va vraiment avoir le résultat escompté? Je te lis juste hein, donc le mail que m'a envoyé Alexandre F, hein, étudiant en Master 1 à Paris 10, Nanterre. J'ai constaté sur le terrain que les opposants au blocage, dont je fais partie, sont très largement majoritaires. Bon, c'est déjà un bon point, ça, hein. Pourtant, ils sont incapables de faire entendre leur voix, certainement par peur et par timidité, parce que vous êtes des gens donc pacifiques et relativement intelligents. Cependant, je suis tout à fait convaincu qu'une contre-manifestation directement menée sur le campus regrouperait de nombreux étudiants et serait une réussite. Nous devons impérativement nous mobiliser et sortir de ce silence pour que cessent ces blocages menés par les groupuscules d'extrême-gauche. Alors voilà, pourquoi ne pas prendre le problème à la racine. Tu me parlais justement, et on peut ne pas être d'accord, tu comprendras, que ce serait à des personnes agressées dans la rue de poser plainte, et vous allez justement dans la rue alors que les choses se passent à l'université.
Alors, je pense que cet Alexandre, il est également, je crois, dans les commentateurs de mon blog, donc... C'est intéressant. Oui, il a déjà développé ce point de vue. C'est vrai que ce point de vue-là, il est très bien. Le souci qu'il y a, c'est qu'il faut déjà qu'on arrive à mobiliser des gens en général, de toute l'université. Si cela, on voit que c'est une réussite, à ce moment-là, il sera temps, et moi je pense que c'est pour ça que ce qui va se passer dimanche est important, il sera temps de faire une manifestation. Il sera temps de faire une manifestation sur le campus de Nanterre, qui est un campus symbolique. Et si la fac est débloquée à Nanterre, ce sera un symbole. Si la fac de Nanterre, si vous voulez, en gros, tombe aux yeux des grévistes, c'est-à-dire qu'elle tombe dans le de nouveau des cours, tout se passe bien, etc., alors dans ce cas, tout se passera bien. Ça, je suis d'accord avec lui, et normalement, les autres facs vont progressivement, voyant, si vous voulez, qu'à Nanterre, la rouge, comme on l'appelle, est tombée, alors là, on se dit, bon, ben voilà, si le symbole est tombé, ça veut dire que nous aussi, on peut gagner. Bon. Donc ça, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu souvent Je pense que c'est le même, même si c'est pas le même, mais bon, il y a un autre Alexandre sur mon blog alors qu'il fait les mêmes remarques.
D'accord, mais bon, stratégiquement, il y a quand même un risque. Si vous passez dans la rue, que vous n'êtes pas assez nombreux par rapport aux mobilisations qui sont pas forcément fantastiques, mais qui sont quand même là, des autres étudiants, parce qu'apparemment, est-ce que c'est seulement sur Paris ou sur toute la France, il faut encore considérer ce genre de choses-là. On sait que les médias ont tendance à vouloir faire mousser la chose et donc vont pas forcément vous être favorables. Donc si vous vous prenez une veste ou une demi-veste dans la rue, est-ce qu'il y aura encore suffisamment de courage pour aller prendre l'université ?
Voilà. Donc moi je pense honnêtement qu'au vu de ce qui nous est montré dans les médias, je ne crois pas que les médias soient contre nous. Parce que de plus en plus, et on a vu d'ailleurs ça, il y a eu un retour de bâton progressif, au départ on nous montrait des universités bloquées.
Alors peut-être pas objectivement, mais tu vois, je dirais, la preuve c'est l'émission de ce soir, finalement les émeutes ça fait plus vendre de papier, de vidéos et d'audio que des gens bien sages, tranquilles, qui vont au cours comme tous
c'est
les
vrai.
Jours.
C'est vrai, je suis d'accord. Néanmoins, je pense que si... En fait, le problème, c'est la difficulté de mobiliser des gens, que ce soit à Nanterre ou ailleurs. La difficulté de mobiliser des gens, si c'est le cas pour la région parisienne, pour quelque chose qui est pacifique, entouré par les forces de l'ordre, si on n'arrive pas à mobiliser les gens pour un tel type de manifestation, alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire une manifestation à Nanterre, manifestation beaucoup plus ouverte, avec des slogans, avec des banderoles, avec des tracts, etc. Ça veut dire qu'on n'y arrivera pas. Parce que non seulement on manquera de personnes, mais tout simplement on manquera d'envie, on manquera d'entrain. Moi je prends dimanche comme un point de départ. Alors évidemment avant il y a eu des sittings, demain il y aura une manifestation également, mais je prends vraiment, je crois en ce dimanche, j'espère que ça va marcher, et même je vais vous dire, même si ça ne marche pas, même si on se prend une veste ou une demi-veste, je pense que de toute façon, c'est le propre de tout début de mouvement. Il y a des leaders, il y a des gens qui suivent les leaders, et puis petit à petit, les rangs grossissent. C'est ce qu'on a vu pour les bloqueurs. Au départ, ils étaient 60 en sciences humaines, à la fin, ils étaient 800. Bon, ben là, c'est la même chose. C'est le même phénomène, seulement nous, on va essayer de partir en étant au moins 1000, voire beaucoup plus si on peut. Hein, je dis une bêtise, 1000, j'en sais rien, je ne sais pas combien... On prévoit maintenant, c'est
enfin,
on circuler l'information le plus possible, on traque, on diffuse, etc. Par le biais des blogs, par le biais même des papiers, on distribue des tracts hein, dans le quartier latin notamment. Bon, si on n'arrive pas à mobiliser les gens pour dimanche, ça veut dire qu'on est incapable de mobiliser les gens sur une seule université.
D'accord, mais tu sais comme moi qu'il est plus facile de détruire que de construire. Les gens qui ont les casseurs de leur côté, finalement, c'est un petit côté festif. Et puis, casser du CRS, après tout, ça peut être amusant, hein, chacun ses goûts. C'est peut-être plus facile d'amener justement des désœuvrés qui aiment bien faire ce genre de choses-là que de braves étudiants qui préfèrent rester tranquilles à la maison plutôt d'aller se mouiller, voire de prendre des coups vu que ça s'est déjà mal passé.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le mouvement est devenu extrémiste. Il avait une racine extrémiste. Hein, déjà bloqué alors qu'on est une minorité, c'est extrémiste. Bon. Mais il est devenu extrémiste même au niveau des actes. Bon. Nous, ce qu'il faut qu'on évite absolument, c'est justement que le mouvement de contre-blocage devienne extrémiste, devienne violent. Il faut absolument, si vous voulez, qu'on arrive à conserver. Et même si ça fait moins vendre, moi je ne suis pas sûr que les gens veuillent moins suivre. Moi, je pense que si on dit tous les contre-bloqueurs maintenant, voilà, ça suffit, on force les bâtiments violemment, hein, s'il le faut, je pense qu'on aura moins de succès que si on dit qu'on fait une manifestation pacifique. Pourquoi ? Alors, parce que les gens auront moins peur de venir à quelque chose qui est pacifique, encadré par les forces de l'ordre, etc., hein, qu'à quelque chose qui va être, c'est vrai, plus vigoureux, mais à mon avis, qui attirera moins de gens.
Alors voilà, mais tu vois, bon, comme vu que votre force c'est le nombre, vu qu'on ne vous permettra pas de voter dans les locaux de l'université, pourquoi ne pas organiser une votation générale sous forme de pétition sur Internet ou dans d'autres locaux ? Faut arriver à faire valoir le droit démocratique de la majorité.
Ça existe. On a tenté l'ouverture de pétition. On a même recueilli quand même un certain nombre de signatures. Bon. Je crois que c'est à Jussieu qu'on a, en une seule journée, il y a une pétition qui a rassemblé 1300 signatures. Bon.
Ok, ouais.
Le problème de ces pétitions, c'est à qui les remettre. On les remet aux bloqueurs, ils nous rient au nez. On l'a fait à Nanterre. Ils nous rient au nez.
Vous avez déjà rendu une pétition?
Et tout à fait. Il y a une pétition qui a circulé, en fait, dès la première semaine, je crois. Le premier vendredi qui a suivi, là, le mercredi où il y a eu les premiers blocages, dès le vendredi, je crois qu'il y a eu une pétition qui a circulé.
Non mais on est quand même face à une bande de nazis, quoi, il n'y a rien à faire. c'est les types qui vous tapent dessus, qui sont minoritaires, qui vous envoient balader, qui vous buguent votre université. Si vous les laissez faire, ça va continuer plus loin, quoi. Qu'est-ce qui les empêche de débarquer chez vous et puis de ramasser ce qu'il y a dans le frigo et la vidéo?
Oui, alors bon, c'est vous dire que si vous voulez, on est aujourd'hui dans une situation où on sait également que les grévistes, moi je le sais parce qu'à Nanterre, j'ai quand même des contacts à Nanterre, et par exemple les grévistes de Nanterre, si vous voulez, ont viré des casseurs d'une occupation d'université. Ils ont dit non, on veut pas de vous parce que vous allez nous casser le mouvement. Mais en dehors de ces, donc si vous voulez, il y a quand même, c'est pas aussi clair si vous voulez. Tout est très compliqué, même au sein des grévistes, parce que il y a des grévistes qui n'en sont pas. Il y a des gens qui sont juste des casseurs, et puis il y a des gens qui sont juste des grévistes. Et puis il y a un groupe informe au milieu qui se situe entre les deux. Mais le souci, si vous voulez, c'est que non, on n'a aucun moyen. Il y a deux moyens. Il y a le moyen de la plainte en justice, qui est quand même un moyen qui est quand même de plus en plus, utilisé aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il y a de plus en plus d'étudiants qui portent plainte. Et je vous avoue que si vous voulez, je vais vous donner des chances parce que j'en sais rien, mais si vendredi prochain, je vois que c'est toujours bloqué parce que après la semaine ouverte, ça continue. Après la semaine banalisée ouverte, ça continue, je songerai à porter plainte, oui. Il y a cette façon-là d'agir. Excusez-moi. Et puis, il y a l'autre façon d'agir, c'est l'armée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les policiers eux-mêmes, si vous voulez, sont blessés tous les jours. Que Dieu fait dans le quartier latin.
Alors, bon, en Suisse, il y a un principe qui est très cher, vois-tu, depuis maintenant bientôt 700 ans, c'est le principe de la neutralité armée. C'est-à-dire que quand on a un problème, hein, on ferme les montagnes, on se plante dessus avec un fusil de chasse. Donc, franchement, l'université, elle est tout autant à vous qu'aux autres. Vu même que vous êtes plus nombreux, c'est à vous qu'elle revient. Reprenez-la.
Oui, mais la difficulté, c'est que... La seule façon qu'on aurait de la reprendre, honnêtement, hein, je veux dire aujourd'hui, si on ne porte pas plainte et qu'on n'a pas les forces de l'ordre qui interviennent, la seule façon qu'on a de la reprendre, c'est honnêtement par la violence physique. Ce qui signifie que si on devient violent, nous, évidemment c'est possible. Évidemment, ça a même déjà eu lieu. Je peux vous le dire, j'ai un ami qui, je veux dire, voyant que il y avait des anti-grévistes qui commençaient à se faire taper, à taper des grévistes, et là on lui a sorti une chaîne de vélo au visage. Ouais.
Je t'interromps deux secondes parce qu'on a maintenant notre ami Sébastien de l'UNI qui est là. Tu restes en ligne avec nous, on va le présenter, on va le faire passer, puis vous serez en conférence tous les deux. Alors, je trouve le moyen de l'inviter dans la conférence, ça sonne, mais on te garde à chaud parce que tu as pas mal de choses à nous raconter. Alors, bon, écoute, en attendant... Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il nous entend? Continue voir. Alors, l'histoire de la chaîne de vélo, c'était intéressant quand même.
Non, mais c'est vous dire que si vous voulez, pour reprendre l'université aujourd'hui, c'est vrai qu'on devrait la reprendre, étant donné qu'on est plus nombreux, beaucoup plus nombreux. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la plupart des gens ne veulent pas être violents. Moi y compris. Moi, je veux dire, j'ai pas envie de me dire, je vais à l'université pour me battre et reprendre mon université. Enfin, je veux dire, je vois pas ça comme une guerre, si vous voulez. J'ai pas envie de voir ça, en tout cas, comme une guerre. Alors là, peut-être que c'est vrai que je me ferme les yeux, mais j'ai pas envie de voir ça comme une guerre. J'ai pas envie de voir ça comme un combat armé. Et la réaction, si vous voulez, de d'Arnaud au début, là, concernant le GUD, le RAID et l'UNI, c'est vrai qu'on en vient à penser que c'est la seule solution. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit les organisations de droite, voire d'extrême droite, qui pourrait nous aider à nous débarrasser de ces personnes-là. Mais moi, je trouve ça triste. Je trouve ça très attristant. Et je recule et je comprends pourquoi les gens, si vous voulez, ne veulent pas participer à ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose... je vais parler en mon nom, mais moi, j'ai 19 ans. Alors, c'est vrai que je suis très jeune pour être à l'université, mais on n'est quand même pas bien vieux. Hein. La plupart des étudiants, quand même, excepté ceux qui ont... ceux qui sont en master ou en doctorat, mais c'est vrai que la plupart des étudiants sont quand même très jeunes. Et c'est quand même une difficulté réelle aujourd'hui de se dire il faut absolument qu'on reprenne l'université par la force, parce que finalement, c'est ça qu'ils nous imposent. Donc,
Et est-ce que ça n'arrivera jamais? Parce que ils vous ont fait le coup en 68, ils vont vous le refaire maintenant, ça peut durer longtemps, hein.
Ben, c'est qu'ils nous ont fait le coup en 68. C'est vrai que moi, c'est ce que je me disais à un moment. J'avais une réflexion sur mon blog en me demandant, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en 68, du coup? Est-ce que c'était vraiment tous les étudiants, comme on nous l'a si souvent montré, qui étaient dans la rue, acheter des pavés, ou est-ce que c'était exactement de la même façon qu'aujourd'hui? Une minorité, bon, certes un peu plus grosse, de toute façon, ça, on sait qu'il y avait quand même plus de mobilisation à l'époque qu'aujourd'hui. Mais qui a mis le bazar comme ça pendant des semaines. Honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, si vous voulez, c'est que ce qui a fait quand même tomber 68, c'est la menace de l'armée. On sait qu'aujourd'hui, quand même, en grande partie, je dis bien en grande partie, le fait que De Gaulle soit parti et soit allé quand même voir l'armée pour, en tout cas consulter ses troupes, on sait même pas si c'était vraiment dans cet objectif là.
Voilà. Oui, alors effectivement, on peut penser qu'un jour Villepin ira à Baden-Baden pour se rétablir de ce qui se passe. Je crois que nous sommes en ligne donc avec monsieur Sébastien Bordman de l'UNI. Bonsoir. Alors bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous entendez, ça se passe bien?
Ça se passe bien, je crois que vous entendez bien, vous m'entendez bien?
Pas de problème, de notre côté je crois que le signal est bon. Alors, vous allez nous présenter vite fait l'UNI, et un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. On vous écoute.
Alors l'UNI, c'est... je viens de vous attraper au bon là, lorsque vous parliez de mai 68. L'UNI, en fait, c'est un... Oula, pardon. C'est un mouvement qui a été créé en réaction justement au mai 68. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend toujours. Il faut peut-être couper la radio si vous voulez que ça se passe mieux, parce que ça arrive de faire de l'écho.
Ouais, il y a tout qui est coupé là. Ah, attendez.
Pour l'instant, de l'autre côté, c'est bon, quoi. Je sais pas si vous nous entendez.
Moi, je vous entends bien.
Ok,
oui.
C'est parfait, on y va. Alors.
Ouais. Ouais, l'UNI, c'est ça, un mouvement qui a été créé en réaction au mouvement de mai 68. Et. Voilà, c'est incroyable. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de faire des comparaisons. On peut simplement dire aujourd'hui que ça n'a rien à voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé le 7 mars et lors des manifestations précédentes. Ces choses-là sont totalement.
Mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui siffle.
Ouais, mais je sais pas d'où ça vient.
Vous n'êtes pas sur le casque.
Si, je suis sur le casque, si, tout à fait.
Enfin, de l'autre côté, c'est bon, ça doit être. Voilà.
C'est un connecteur qui déconne. Pardon, excusez-moi.
Les salades du direct. Bon. Alors, ouais, mais 68, mais bon, vous pensez que c'est pas vraiment la même situation
Ça a pas grand-chose à voir. On avait un élan énorme en 68. On a eu. Une des grosses différences, peut-être. Entre aujourd'hui et 68, c'est que on a aujourd'hui une réaction qui existe, c'est-à-dire qu'on a, politiquement parlant, des organisations qui sont créées aussi bien à gauche qu'à droite, ce qui n'était pas forcément le cas en 68.
D'accord.
En 68, on avait un gouvernement qui se voulait fort, qui dirigeait les médias d'une manière pas forcément très démocratique, et aujourd'hui on a une situation où il n'y a pas grand chose qui a à voir avec cette situation 68, dans la mesure où on a des médias qui sont bien plus libres. Ils pratiquent certaines autocensures, c'est un grand sujet de discussion à avoir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucun contrôle au niveau du gouvernement sur les médias en général, quoi.
Donc, et toi, ton côté, donc tu es étudiant dans quelle université?
Moi, je suis étudiant en droit, sur Paris, en Sorbonne, en fait.
D'accord. Et donc l'UNI, qu'est-ce que c'est?
L'UNI, c'est un mouvement étudiant. Politiquement situé à droite, on fait partie de l'UMP, en fait. Hein. On est affilié à l'UMP et voilà, on a dans notre mouvement, on a des gens qui sont aussi bien provenir de l'UDF que du MPF, La raison, elle est simple, c'est que on a au niveau des une profusion de mouvements de gauche, alors que à droite c'est très simple, c'est très clair. On a d'une part l'UNI dans les universités, et d'autre part on a de temps en temps, mais très rarement, de manière très épisodique, on peut avoir de la représentation de l'extrême droite.
D'accord. Voilà. Et donc, attitude relativement donc de droite sur la question du CPE. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour vous qui êtes jeune et étudiant, ou est-ce que uniquement pour suivre l'UMP ?
Non, très 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 clairement, le CPE, on n'a pas été démarché par quiconque, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'UMP, pour nous expliquer le bon fondement de cette loi là, qui rentre dans une loi beaucoup plus globale, la loi sur l'égalité des chances, qui consiste simplement à mettre en avant le fait que les jeunes, chaque jeune en France a autant de droits qu'un autre jeune à réussir. Voilà.
D'accord. Donc j'étais en discussion tout à l'heure avec Roland Richard, qui est un étudiant de Nanterre en histoire.
D'accord.
Qui fait partie donc des contre-bloqueurs, qui est aussi un peu opposé à la grève et qui est plutôt favorable au CPE. Il a dit que finalement, en ce qui le concerne lui, tu m'arrêtes si je me trompe Richard, pardon Roland, que c'était pas forcément quelque chose de mauvais pour lui, admettons. Est-ce que pour vous, pour les membres de l'UNEF, de l'UNI, ça se passe bien, c'est quelque chose que vous voudriez pour vous-même.
C'est quoi la chose qu'on voudrait pour nous-mêmes, pardon?
Le CPE.
Le CPE, bah évidemment, le CPE, ça va garantir un certain nombre de droits qui n'existent pas jusqu'à présent, c'est-à-dire que le CPE permet aujourd'hui, non, pour l'instant, il ne permet rien du tout, il n'est pas mis en place, mais il permettra aux étudiants, aux nouveaux salariés, d'avoir une indemnisation de chômage si jamais ça devait mal se passer dès le quatrième mois, ce qui n'est pas le cas avec un CDI, ce qui n'est pas le cas avec un CDD évidemment. Il va permettre un droit à la formation dès le premier mois, dès après le premier mois de travail dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas ni avec le CDI ni avec le CDD. Il y a des droits fondamentaux. Il y a un dispositif qui est mis en place qui permet un accès au logement qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus.
D'accord. Juste deux, trois petites questions encore. Quelle est l'importance de l'UNI à peu près ?
L'importance, comment ça ?
En
termes d'adhérents, on est aujourd'hui sur toute la France, on tourne autour de 25 000 membres, voilà, 25 000 adhérents.
D'accord.
Voilà.
Et quelles actions vous avez entrepris, vous prévoyez d'entreprendre ? Donc Richard fait partie de ceux qui voudraient donc faire un sit-in silencieux ou une manifestation donc dimanche à Paris.
Il est prévu une manifestation dès demain à midi, place du Panthéon. Et cette manifestation-là, enfin ce rassemblement-là, il est non seulement ouvert à tous ceux qui sont contre les blocages dans les facs. D'abord, c'est d'abord à ces gens-là qu'on fait appel, même si parmi ceux qui organisent ce rassemblement, il y a l'UNI qui se dit totalement favorable au CPE, quoi.
D'accord.
Et dans ce rassemblement, il y aura des gens de l'UNI, mais aussi des gens de différentes organisations et même de choses qui se sont créées là ces tout derniers jours ou ces toutes dernières semaines, de gens qui sont contre les blocages, d'étudiants qui se rassemblent et qui essaient à tout prix d'avoir juste tout simplement accès aux cours, quoi.
Entendu. Vous attendez du monde, à peu près combien ?
Pour je peux vous dire. On a décidé avec d'autres organisations et comme je vous dis d'autres représentations de mouvements de faire ça ce soir. Donc je sais pas du tout. On pense qu'on va avoir 2000-3000 personnes.
D'accord.
Mais après. C'est très peu de temps, mais bon, en même temps, on est sur Paris, donc c'est joué.
Entendu. Je vais reprendre Roland quelques minutes. Roland, t'es là ?
Oui, oui, tout à fait.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ce que nous a dit donc Sébastien sur ces questions ? Est-ce que tu crois que l'Uni fait ce qu'il faut, elle est suffisamment engagée ? Est-ce que tu participeras donc aussi à cette manifestation de demain ? Est-ce que ça te branche ou au contraire tu penses qu'ils en font pas assez, trop
Ah. En ce qui me concerne, vous m'entendez bien là ?
Ouais, je vous entends. Enfin, un peu moins clair qu'avant, mais on t'entend. Ouais.
D'accord. Donc, de toute façon, vous m'entendez bien là ?
Ça saute un peu.
D'accord.
Et save. Avant, c'était parfait. Hein.
oui, bah, c'est parce qu'il y a eu un temps. Alors, non, mais en ce qui me concerne, de toute façon. Moi personnellement, je suis ni pour l'UNEF ni contre l'UNI. J'ai pas spécifiquement d'avis. Bon, le vrai problème aujourd'hui de la plupart des gens qui sont contre le blocage, c'est qu'ils sont pas politisés et ils sont pas syndiqués.
D'accord.
Ce qui veut dire que si vous voulez la récupération, c'est vraiment ça revient très la crainte de la récupération du mouvement par une organisation politique ou syndicale est aujourd'hui, enfin, c'est une crainte qui existe. C'est-à-dire que c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, c'est que la plupart des gens qui sont contre les blocages ont peur qu'à leur tour ils soient instrumentalisés pour être classés comme pour le CPE. Bon, évidemment, Sébastien a bien expliqué son point de vue, il a bien expliqué par rapport à la manifestation de demain que même si l'UNI était pour le CPE, qu'on pouvait venir, etc. Évidemment, de toute façon, bon, moi en ce qui me concerne, j'ai une obligation demain qui de toute façon m'empêche d'aller à toute manifestation, mais moi honnêtement j'y serais allé parce que j'ai rien contre l'UNI, mais je peux comprendre également qu'il y ait des gens qui soient contre le CPE et qui donc n'aient pas véritablement d'affinité avec lui. Et on a vu même des gens d'ailleurs des blocages existent. C'est pas non plus un nombre minoritaire. C'est pas non plus un nombre majoritaire, mais je veux dire c'est pas une toute petite minorité. Il y a des gens de gauche qui sont contre les blocages et qui sont forcément contre le CPE, j'ai envie de dire.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre que tous les gens contre les blocages ne vont pas forcément à un appel de manifestation de la part de l'UNI.
D'accord. Mais enfin, nous, du côté suisse, on est souvent frappé par la difficulté que les Français ont à s'unir. Mon Dieu, il semble quand même que vous soyez une très forte majorité. On va avoir un petit peu marre des blocages de votre université. Ne pas être dupe sur les origines des mouvements grévistes et anti-CPE. Mon Dieu, il semble quand même que les moyens qui sont peut-être difficiles à prendre sont assez faciles à appliquer.
Moi, je pense qu'en fait, on va voir ça durant les prochains jours. Si les estimations de Sébastien sont justes, si demain, réellement, 2 à 3 000 étudiants qui viennent à cette manifestation,
ouais.
Qui est quand même beaucoup moins médiatisée, enfin, beaucoup moins médiatisée, bloc que je...
Tu commences à sauter pas mal, hein. Là, on t'entend plus tellement.
Oui, je suis désolé, je sais pas à quoi c'est dû.
T'es en train de trafiquer quelque chose
Non, je bouge pas.
Des emails, rien?
Non, j'ai vraiment pas bougé.
D'accord, c'est assez irrégulier, enfin bref. Donc, toi tu penses que finalement, on va manifester et contre-manifester pendant des jours et des jours jusqu'à ce que finalement, les gens qui font tout, c'est-à-dire les gauchistes et les violents, pour reprendre les termes que tu as utilisés tout à l'heure, décident de s'arrêter?
Je pense qu'en fait, l'arrêt peut venir des gens qui sont grévistes et non violents. Parce que dans les grévistes non violents, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter pour leur cours. Il y a des gens qui commencent à s'inquiéter pour leur examen. Et donc, si eux commencent à se dire, bah, de toute façon, Villepin ne lâchera pas. Moi, je sais que pour les grévistes, on comptait beaucoup sur l'intervention du président de la République pour qu'il désavoue son Premier ministre.
D'accord.
Ce qui n'a pas été le cas.
Mmh.
On l'a vu en Allemagne, M. Chirac a apporté son soutien le plus complet politique du chef du gouvernement. Donc du coup moi je pense que la voyant que ça ne tombera pas, mmh. et voyant également, si vous voulez, que les examens se rapprochent et que finalement on n'a pas eu de cours quasiment, on a eu 2 semaines de cours, je pense que l'arrêt peut venir même des grévistes eux-mêmes. Les casseurs vont continuer. Ça c'est quasiment sûr. J'ai envie de dire que l'occasion est trop belle, l'opportunité est trop belle. Mais voilà. Bon, maintenant, non, je pense qu'il faut continuer. Il faut montrer qu'on est les plus nombreux. Mais de toute façon, je veux dire, à la violence, on peut, nous, sans violence, on peut pas répondre. Or, la violence, c'est quand même une idée qu'il a dans les gens qui sont contre les blocages. On a vu qu'il y a eu une manifestation et aussi d'extrême droite hier soir à Sorbonne.
D'accord.
Et donc, est-ce que c'est eux qui doivent réellement, je veux dire, relancer le mouvement ou pas ? J'en sais rien. Je ne sais pas si même c'est profitable. Bon.
Ouais, ça sent quand même un petit peu compliqué. Je te lis encore quand même le dernier mail de Alexandre. Donc c'est bien lui, hein, tu l'as reconnu. Il te remercie, il te félicite, n'est-ce pas ? Donc, pourriez-vous proposer à Roland cette solution ? Pourquoi ne pas organiser une manifestation spontanée la semaine prochaine sur le campus à 1 heure d'affluence à laquelle se joindraient les étudiants sur place ? Ça peut être une alternative.
Oui, ça je crois que c'est une très bonne idée. Et ça en fait, c'est quelque chose auquel on a pensé déjà, parce que c'est, en effet, c'est quelque chose de possible. Par exemple, 1 heure d'affluence à l'université, c'est entre 9h30 et 10h30. Là, en général, il y a quand même un certain nombre d'étudiants. Et à la limite, démarrer une manifestation en tractant à la sortie du RER, parce que l'université de Nanterre est juste à côté de la gare RER. Donc, commencer à diffuser des tracts à la sortie du RER et dire, ben voilà, nous, on organise une manifestation dans une demi-heure contre ces blocages. Donc, joignez-vous à nous. Ça, à la limite, moi, je pense que plus que d'organiser quelque chose à Nanterre à l'avance qui, à mon avis, ne marchera pas d'une part parce qu'on n'a pas assez de contact sur les gens qui sont à Nanterre et même le bouche à oreille ne suffira pas. Et d'autre part parce qu'en plus, il faut quand même, il faut se méfier des choses préparées à l'avance. Là, dimanche, on a les forces de l'ordre qui nous encadrent. Si on commence à préparer quelque chose à Nanterre, c'est pas sûr qu'on les ait. Et le risque, très honnêtement, hein, je veux dire, c'est quand même qu'on se fasse casser la figure. Donc, parce que les casseurs, on ne sait jamais, s'ils apprennent qu'il y a une manifestation à Nanterre, ils pourraient très bien venir nous dire bonjour.
Mais à cœur vaillant, rien n'est possible quand même, mon cher.
Oui, à cœur vaillant, rien n'est possible, mais à cœur vaillant, face à une barre de fer, je veux dire, là, c'est bête, mais je pense qu'on pourrait tous battre le record du 100 mètres. Donc, il faut quand même, il faut voir que, moi, pour avoir discuté quand même avec l'administrateur d'un autre blog, il y a une angoisse par rapport aux violences. On a peur, honnêtement, on a peur, surtout qu'on a vu à Nanterre comment ça pouvait se passer, et on a peur de comment ça peut évoluer.
Oui, il est certain, si je peux me permettre.
Oui, alors on récupère Sébastien.
Pardon. Et, simplement pour confirmer ce qu'il dit, c'est que la radicalisation s'est faite au fur et à mesure que on en est arrivé... jusqu'au blocage de la Sorbonne là, et on a aujourd'hui dans différents endroits, notamment à Nanterre, des gens qui sont totalement radicaux, qui sont pas forcément étudiants ou plus forcément étudiants, et qui pensent qu'à une seule chose, c'est d'une part casser le matériel, taguer, prendre les chaises, les mettre en cases morceaux, casser les tables, etc., et puis éventuellement choper des gens, choper des étudiants qui eux aimeraient aller en cours pour les mettre en morceaux, quoi, ou en tout cas les cogner un petit peu.
Je faisais part à Roland justement de ma surprise. Vous êtes quand même très fortement majoritaire et il semblerait quand même que ce soit ces trublions qui fassent la loi.
À partir du moment, ce qui se passe, c'est que on a d'une part des gens qui veulent juste étudier, c'est tout. Ils demandent pas autre chose. Ils veulent étudier, ils veulent aller en cours, ils veulent pouvoir suivre des cours normalement. Ils veulent pas forcément faire de politique. Ils veulent pas forcément faire du pro-CPE ou de l'anti-CPE. Ils veulent juste suivre des cours, c'est tout. Et puis on a de l'autre côté des gens qui pensent qu'à une seule chose, c'est déstabiliser, aller casser du flic, foutre le bordel, pardon, voilà quoi.
Faut bien s'amuser. Alors dis donc, ce soir tu étais à France 2. Ouais, comment ça s'est passé?
Bah, en fait, on a été là-bas simplement pour marquer le fait que, une fois encore, on a la télévision publique française qui va expliquer à ceux qui regardent cette chaîne-là qu'on a d'une part le ministre, un représentant du gouvernement, et puis on a d'autre part des étudiants qui sont voilà ces jeunes que les journalistes veulent faire passer dans un affrontement où on aurait d'un côté le représentant du gouvernement et puis de l'autre les jeunes qui sont tous forcément contre le CPE.
Voilà,
et puis on a pas sur le plateau, et ce qui est un petit peu dommage quand même, on n'a pas sur le plateau des gens qui pourraient s'exprimer en faveur du CPE, quoi. Ça n'existe pas. Alors ça, on n'a pas trop bien compris pourquoi. Alors on est allé là-bas, on a demandé à participer nous aussi à l'émission, et puis on a été un petit peu chahuté. On leur a expliqué qu'on n'avait pas forcément grand-chose à faire ici, qu'on n'avait pas été invité, qu'on pouvait simplement rentrer chez nous, quoi. Ce que nous avons fait, évidemment.
D'accord.
Voilà.
Donc ils vous ont carrément censuré. Vous n'avez pas eu la moindre seconde d'antenne.
Ouais, on s'est fait jeter. On n'est pas sorti puisqu'on n'a pas pu rentrer.
Donc, il fallait la jouer intermittent du spectacle et puis
c'est sûr qu'à faire des sketchs ou éventuellement faire un petit feu de joie devant France 2, on aurait peut-être eu plus de succès, quoi.
Et puis là, on parlait hors antenne donc de la manifestation d'aujourd'hui, donc contre le CPE. Plus ou moins en faveur des grèves et du blocage, hein, parce qu'apparemment c'est quand même lié. C'était une réussite.
Oui, en fait, on a.
Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de la casse?
Par rapport, il y a eu de la casse, notamment aux alentours, aux abords de la Sorbonne, boulevard Saint-Michel. Apparemment, il y a eu des affrontements. J'ai pas beaucoup, vraiment, pour tout vous dire, pas énormément d'infos par rapport aux différents endroits où il y a pu avoir de la casse, mais je sais que d'un point de vue chiffré, le rassemblement n'a évidemment pas été, et ce qui était prévisible, ce qu'en attendaient les organisations de gauche, quoi. Les organisations de gauche auraient bien aimé passer, pourquoi pas, le million, puisque c'était le chiffre symbolique qui avait été annoncé par la CGT, repris par l'ensemble des syndicats et des journalistes dans les médias, même si au fur et à mesure, dans certains médias, on expliquait que finalement il n'y avait peut-être que 400 000 et puis finalement il n'y avait peut-être que 200 000. Donc on a quand même un coefficient multiplicateur qui varie de 3 à 5 suivant les médias et qu'on regarde c'est qui donne les chiffres, etc. Aujourd'hui, je crois que c'était plutôt une manifestation qui a tourné au ridicule, quoi.
D'accord. Et vous craignez pas que ça vous arrive aussi?
Par rapport à demain?
Ouais.
Je ne pense pas, simplement pour cette raison, c'est que un étudiant, il s'y va en fac, c'est pas pour bloquer la fac, c'est pour aller étudier, quoi.
D'accord. Est-ce qu'une organisation comme l'UNI a des rapports justement avec des contre-bloqueurs comme Roland, des jeunes qui pensent à la même chose, qui pourraient fonctionner un petit peu en cheville? Vous pourriez peut-être faire des organisations un peu plus montées comme ça.
Alors on
j'essaie de vous mettre ensemble, hein, ça fait impossible de rencontre, mais ça peut peut-être.
Vous savez, en fait, là on n'en est plus à un calcul de qui va récupérer l'autre ou quel est ou plutôt l'UNI va absolument tout faire pour récupérer tout ce qui se passe, etc. On est plutôt dans cette idée-là, hein. Et on n'a peut-être pas forcément été, on veut peut-être pas forcément récupérer tout ce qui se passe, etc. Machin. La seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est que les étudiants, qu'ils soient pour ou contre le CPE, puissent aller en cours, reprendre les cours normalement, suivre des cours normalement dans des amphis comme ils le faisaient il y a un mois, il y a deux mois, il y a un an, il y a cinq ans, enfin voilà, quoi.
Donc, à part des manifs, vous n'avez rien de spécialement prévu. Comme Roland, vous êtes plutôt des pacifistes, vous vous démarquez de ces groupes étudiants de droite qui auraient pu user de la violence.
on n'a pas pour objet et on n'a pas envie d'aller à l'affrontement sur ces choses-là. Non. Après, je dis pas que si y a des gens de gauche agressifs, eux, qui viennent nous chercher, on répondra pas. Ça, c'est autre chose. Mais a priori, non, on va pas aller vers eux. Non. On va pas chercher d'embrouille par rapport à ce qu'ils font.
Plutôt neutre et défensif.
On va se défendre, voilà, ça c'est sûr, mais on va pas.
Et puis en ce qui concerne donc les votes qui ont été interdits dans les universités, vous n'avez pas essayé de réagir parce que ça c'est quand même, je trouve ça énorme. Je suis peut-être un peu naïf et pur, mais franchement, je trouve ça quand même absolument gigantesque.
Mais tout s'explique très simplement, et c'est là peut-être, c'est sur des choses comme ça que des gens qui sont contre les blocages et qui sont pas forcément politisés peuvent peut-être à un moment donné devenir ou se politiser un minimum. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit par exemple que le président de Nanterre, ben c'est quelqu'un de très politisé. Le président de Nanterre, c'est une personne qui a tenté de devenir conseiller général dans sa région, en Moselle, à quelque part, je me rappelle plus de l'endroit exact, dans le canton exact, mais il a tenté de devenir conseiller général. Il a été battu par une personne de l'UMP, mais bon. Il est toujours membre du Parti Socialiste. Et puis, il est conseiller municipal d'Hivergauche. Pareil, dans le coin, mais je me souviens plus. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'UNI, par exemple, quoi.
D'accord. Ouais.
Donc, en fait, on s'aperçoit simplement que les premiers présidents à avoir parlé sont des gens qui sont très engagés politiquement. Et c'est pas du tout le gentil président qui pense qu'à ses étudiants et qui pense qu'au bien-être de ses étudiants, qui pourrait évidemment craindre le pire du pire si le CPE devait exister. Quoi.
Il pense à ses fesses, quoi, comme tout le monde.
il pense à se faire mousser. Chez ses copains présidents d'université et voilà quoi. Je crois que son intérêt premier, celui qui prime avant le reste, ouais, c'est ça, c'est de se faire mousser et puis de montrer que lui aussi il peut faire du militantisme, quoi.
D'accord. Et en ce qui concerne les dépôts de plainte, est-ce que l'UNI en a déjà fait usage?
Tout à fait, il y a des dépôts de plainte qui ont été faits durant toute la journée d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que le référé liberté devant le tribunal administratif, à partir du moment où il est déposé au tribunal, le juge des référés a 48 heures pour délibérer. D'accord. Donc on va avoir les premières décisions très rapidement, courant de demain. Il est possible qu'on en ait, et ce qui est sûr, c'est que lundi on en aura forcément, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des gens de chez nous, militants, adhérents de chez nous, qui ont intenté ces recours, mais il y a énormément de gens. Disons qu'on l'a sorti hier le référé, un référé type qui est disponible sur le site de l'UNI, lui aussi. On l'a sorti hier soir. Et là, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont signalé qu'ils avaient fait un référé. Le nombre, on est à peu près à 130 personnes.
D'accord.
Partout en France, quoi, dans les différentes facs de France qui sont bloquées.
Ah, c'est quand même.
Donc je pense qu'on va en entendre parler de ça, hein, c'est sûr. Et puis je pense que là, les présidents d'université, ils vont peut-être un petit peu se calmer, un petit peu se détendre avec leur bêtise qui consiste à faire surtout de la politique et pas tellement de l'enseignement dans leur faculté ou de l'administration dans leur faculté.
Donc vous êtes un peu seul, hein. Les présidents d'université vous lâchent, les médias vous mettent à la porte, les politiques ça suit, vous avez quelqu'un?
Non, je dis pas ça. Je dis simplement que par rapport à ce qui s'est passé ce soir sur France 2, il y a une journaliste bien précise qu'on connaît parfaitement bien.
C'est qui?
Qui n'a pas voulu de nous. C'est
des noms.
Arlette Chabot,
d'accord. Voilà. Alors un pilori pour Arlette Chabot. C'est beau la liberté d'expression quand même.
Qui n'a pas voulu qu'on soit sur le plateau. Bon voilà, c'est un choix qu'elle a fait. voilà, pourquoi dire, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Mais non, à côté de ça, on est relayé. Il suffit de voir bah, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, LCI, iTélé. Enfin, non, nos idées sont relayées. Il y a pas de problème sur ça. Il y a parfois des petits. Voilà, ce soir, il y en avait un.
D'accord. Ça arrive. Ok, bah écoutez, les jeunes, je crois qu'on va gentiment bâcher, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire à nos auditeurs ébahis. Roland.
J'ai juste une question pour Sébastien.
Vas-y.
Alors, en fait, je voudrais simplement savoir, parce que je sais que par exemple, enfin, tu vas certainement me confirmer ou pas, mais à Toulouse, en fait, il y a eu donc le juge donc a décidé la reprise des cours, et j'ai entendu dire, enfin de sources sûres, moins sûres, bon, de toute façon, il y a tellement de rumeurs maintenant que c'est compliqué de savoir, mais que les étudiants avaient pu retourner en cours, mais enfin, je veux dire, entourés des vigiles. Alors, est-ce que on risque ça pour les 130 personnes là, donc qui ont porté plainte, et donc il y a certaines universités, donc probablement qui vont suivre le même chemin de ce qui a déjà été décidé, c'est-à-dire la réouverture des salles de cours. Est-ce qu'on risque ça nous aussi, par exemple, dans une université comme Nanterre ou dans une université comme la Sorbonne ou etc. Est-ce qu'on risque ça? Est-ce que tout simplement, est-ce qu'il faut pas voir, enfin, est-ce que vraiment les dépôts de plainte au-delà de l'aspect symbolique de réussite que ça a, est-ce que vraiment ça a un impact? Parce que est-ce que ça vaut le coup d'aller en cours si on est entouré de vigiles, quoi?
Non, alors il y a le référé liberté, ce qui fait, c'est qu'il amène le problème qui existe aujourd'hui devant les tribunaux administratifs français. Ce référé liberté rappelle, l'objectif premier, c'est tout simplement de rappeler au président de l'université qu'il a obligation à mettre à disposition des locaux pour que les étudiants puissent étudier librement. Ces locaux peuvent être situés dans l'université même, dans les enceintes de l'université, ou alors ça peut être des locaux que la mairie peut prêter, que n'importe quel bâtiment, qui peut être n'importe quel bâtiment public en fait. Donc déjà, on n'est pas forcé de s'entêter si on a dans un bâtiment un parterre de gens qui sont pour le blocage, qui refusent absolument de laisser les gens étudier tranquillement. On n'est pas obligé d'aller juste à côté, dans l'amphi d'à côté, pour que ça puisse être, enfin pour que cela pourrait être interprété comme quelque chose de, enfin ça pourrait être très mal vu par eux, j'arrive plus à trouver le mot, pardon, parce que ils pourraient se sentir agressés du fait qu'il y en a qui vont en cours et puis que font leur blocage, puisque on les entend déjà pas mal appeler à la solidarité lorsque nous on dit qu'on a envie d'aller en cours, ils disent ah bah oui mais vous êtes pas du tout solidaires, vous comprenez rien à rien, etc. Je pense pas sincèrement que il y ait des gens qui vont devoir nous entourer, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément facile. Nanterre, c'est très très compliqué, ça c'est clair. Mais il faut relativiser ce qui se passe à Nanterre par le fait que le président de l'université joue un rôle très politique dans l'histoire. Et ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on va expliquer à ce président d'université qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrête de faire de la politique, sincèrement, clairement, et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il entreprenne de faire étudier ceux qui veulent étudier, tout simplement, à partir de là, tout sera très simple, tout rentrera dans l'ordre très rapidement, et on n'aura pas besoin qu'il y ait du personnel de la sécurité qui puisse s'amuser, enfin qui soit obligé d'amener les étudiants en cours, etc.
D'accord. Je me permets juste une dernière chose. Enfin, je veux pas prolonger indéfiniment, mais je sais qu'à Rennes, donc il y a eu une délibération et le juge a dit donc en gros que les étudiants de Rennes qui voulaient reprendre les cours pouvaient reprendre les cours. Mais l'angoisse du président directement de Rennes 2, ça a été de dire, bah oui, mais le gros problème, c'est que tout simplement les bloqueurs risquent d'aller à l'endroit où il va y avoir les cours, même si c'est en dehors de l'université. Et donc à ce moment-là, on est de nouveau au point de départ. Et le président de Rennes n'est pas spécialement contre le CBE, enfin je crois pas. Donc
la petite différence qu'il y a, c'est que à un moment donné, il y a le président d'une université qui a le pouvoir de police, qu'elle seule sur ces terres, à pouvoir dire s'il a envie de l'usage de la force ou pas. Hein, du pouvoir coercitif ou pas. Si les étudiants sont dans un bâtiment extérieur, il y a plus à agir du président de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le pouvoir du président qu'il a dans une université précise à faire à peu près ce qu'il a envie de faire avec les étudiants, parce que lorsqu'il y a des gens qui vont bloquer, ben au lieu de débloquer la situation comme ça devrait être normalement son rôle, en tout cas c'est ce qu'on pense, il incite les gens à être plus nombreux, à aller squatter les amphis, dormir dans les bâtiments. Ben au lieu de faire ça, on va avoir si on organise des cours dans les mairies ou dans des bâtiments de l'État ou de la mairie, ben à ce moment-là, on va plus avoir le président de l'université qui va nous imposer ses conditions, mais ce sera ou le maire, enfin une autre personne qui sera elle compétente du respect des lieux. Donc on va plus avoir ce problème-là.
OK.
D'accord, écoutez camarades, on vous souhaite bonne lutte, hein, en tout cas pour la suite. On espère que vos manifestations iront bien. Auquel cas, si ça se passe mal, vous savez que la Suisse a volontiers l'asile académique. Hein, on sera ravis de vous avoir chez nous. Ça pourvu que vous ne nous amenez pas les autres. Voilà, enfin, moi, j'ai vécu ça dans du temps passé de ma jeunesse. J'ai connu quelques blocages, mais enfin, chez nous, c'est microscopique. Et puis, bon, le communisme a toujours fait un peu rire. Alors voilà, écoutez, on espère que ça va bien se passer. Évidemment, vous avez antenne tout à fait libre sur le BAF. Vous nous appelez quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. On fait une interview, on discute des nouveautés, comment ça se passe. Moi, je serais effectivement enchanté de garder un peu le contact. Donc c'était Roland Richard qui a commencé. On lui remercie de nous avoir tenu la dragée haute, d'ailleurs, pendant plus d'une heure et demie. Donc contre-bloqueur à Nanterre, en fac de lettres, et puis Sébastien Bordman de l'Uni. Je crois que le mot de la fin est dit. Vous avez encore quelque chose à raconter?
Non, moi, enfin, ce qui me concerne, juste vous remercier pour votre accueil.
Mais c'est rien.
Ouais, émission bien sympathique. J'espère que ça aura.
Bah écoutez, on a inauguré un système, on espère que ça marche. En tout cas, apparemment, l'audioconférence, ça a l'air de jouer. Donc vraiment, n'hésitez pas, dès que vous avez du nouveau, vous savez qu'on est prêt à vous faire une interview. Pour les auditeurs, on va vous laisser là. Donc, sachez que mardi prochain, nous recevrons Bernard Anthony pour son dernier livre, L'Islam sans complaisance. Ça peut être relativement intéressant. L'émission que vous venez d'entendre, vous allez la retrouver dans quelques minutes sur Internet. Les personnes qui seraient intéressées à faire de la publicité sont évidemment les bienvenues, et les artistes en devenir peuvent tout à fait nous envoyer des copies de ce qu'ils produisent. Nous pourrons le diffuser. Ce sera très volontiers. On va se passer un dernier petit disque. Roland et Sébastien, je vous remercie du fond du cœur. J'espère vous avoir à bientôt. Et puis, chers auditeurs, un petit disque et au dodo. À bientôt. Au revoir et merci.
C'est une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. Sortir du brouillard.
Chirac en prison, les Vampas, c'est peut-être ce qui arrive d'arriver à la fin de toute cette histoire, à moins qu'il ait la bonne idée d'aller se réfugier en Allemagne, comme un certain Charles, qui a beaucoup inspiré notre ami Jacques, il y a de ça quelques années, comme quoi l'histoire est cyclique. Sur ce, bonne nuit, à bientôt et à la semaine prochaine. Thank you.